Bonsoir, bonjour. Tout dépend de quel endroit vous nous écoutez dans le monde. Donc bonjour, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Web Radio, Radio Étoile du Cœur. Et c'est que la deuxième émission après Philippe David, qui a été le premier invité. Et ce soir, il y en a qui l'appellent déjà un ange. Elle est là, Agatha. Ça va être à elle dans quelques instants. Mais vous le savez, une émission de radio ou de télévision a toujours ce qu'on appelle un générique. Cette émission, je l'ai baptisée... Comment l'ai-je baptisée déjà? En suivant les étoiles. A tout de suite alors, avec Agatha.
Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous retrouver dans l'intimité d'une personnalité qui exerce le métier aujourd'hui que nous, les élèves de l'Académie audiovisuelle, mais aussi des personnes qui nous regardent, aimeraient connaître, approcher ou peut-être même exercer.
Mais j'espère que ce sera utile, que cette rencontre pourra donner des idées et de l'envie à vos élèves et à vos spectateurs.
Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de nous retrouver avec Grand Corps Malade, Fabien Merceau, qui a eu un petit moment pour nous recevoir. Et dans votre vie, Fabien, Slam, il arrivait, est-ce qu'il a toujours existé dans votre vie, ou est-ce qu'il y a eu un moment qui a fait que vous êtes mise à écrire et vous êtes dit, c'est fait pour moi, je ressens quelque chose, j'ai envie de communiquer de cette façon-là?
Ouais, c'est vraiment arrivé d'un seul coup.
Est-ce que vous pensez que si Coluche, il démarrait aujourd'hui sa carrière, est-ce qu'il pourrait parler librement comme il le faisait? Que ça plairait? Est-ce qu'il serait mal jugé?
Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il ne pourrait pas dire.
Pour Agatha. De qui s'agit-il?
Donc de moi, il s'agit de moi.
Merci. De toi, déjà
évidemment, mais oui.
Voilà.
J'aimerais bien.
Il s'agit de
Brigitte Bardot, bien évidemment, donc une femme culte, un mythe, toute une histoire, une femme magnifique, naturelle, qui nous a, je pense, qui nous a toutes et tous touchés, inspirés.
Ouais. C'est pour toi une surprise, Agatha.
Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendu, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton ascèse inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Marie, t'es pas Marie, je parle Marie, j'ai peur. Marie, merveilleuse, je veux graver mes lèvres en rouge sur ton. Mon ardente, ma polonaise, ah, j'ai décimé tes bijoux, j'ai brisé ma montre et la chaise, et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi, ma polonaise, je suis affamé comme un. Je viens
C'est un extrait de la comédie musicale de Serge Lama, Napoléon, Marie la Polonaise. Tu ne t'appelles pas Marie, Agatha.
Non, mais je suis bien la Polonaise. Et je te remercie. Je ne connaissais pas cette chanson.
Tu ne connaissais pas ?
Non.
Depuis combien de temps tu es arrivée à Paris, en France ?
Ça fait 16 ans. J'avais 18 ans quand je suis arrivée. Je suis arrivée pour rejoindre ma maman, en fait, pour tout te dire. J'avais ma maman qui vivait déjà ici. Et je suis arrivée à 18 ans. Voilà, je débarquais à Paris. Surtout par rapport à maman. Et après, la vie a fait que je suis restée ici. C'était pas évident au début, évidemment, comme tous les débuts, c'est jamais évident. Et aujourd'hui, je suis une grande amoureuse de Paris. Une Parisienne aussi, je trouve.
Et tu redécouvres la Pologne, peut-être ?
Je redécouvre aujourd'hui la Pologne, ouais. Finalement, en quelque sorte. Quand j'y vais, je me rends compte que je connais plus la France. Évidemment, je suis emprunt de la tradition de notre culture slave. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce retour aux racines. Mais je suis aussi très parisienne. C'est très étrange de trouver cette double culture comme ça en soi. Est-ce qu'on se rend pas compte ? On ne sait pas à quel moment ça arrive, et ça arrive naturellement. Et c'est surprenant, mais c'est très enrichissant.
Cela va faire bientôt un peu plus... Ah non, je bégaye. Non, parce que tu sais, tu as vu, hein, tu rentres dans un studio où il y a un homme qui cause dans le micro, mais qui fait tout.
Oui, j'ai vu ça. Bravo, hein? Bravo.
Toi, tu as plus l'habitude de travailler en équipe, que ce soit à la radio ou à la télévision.
Oui, mais parfois c'est moins convivial qu'ici chez toi. Je te remercie pour cette belle invitation, tout d'abord.
Ça va faire un an bientôt que nous nous connaissons.
Oui.
Je t'avais écouté sur une radio dans laquelle j'étais animateur et j'avais trouvé la voix, quelque chose de différent chez toi. Je ne sais pas comment le dire. Un peu de retenue et en même temps beaucoup l'envie de communiquer avec les autres.
Écoute, je te remercie. Je ne sais pas, je me rends pas très bien compte, mais j'aime ce métier auquel j'ai accès aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en aurais eu si je serais restée en Pologne. Probablement pas, vu que je venais quand même d'une petite ville où c'était tout simplement difficile d'avoir des accès à la vie artistique et au métier artistique. Et ce que je trouve merveilleux à Paris, c'est quand on a envie de faire quelque chose, quand on a une passion, et quand on se donne des moyens, on peut arriver à tout. Et je trouve ça merveilleux.
La télévision, c'est ta passion ?
Alors, ça n'a pas été avant ma passion, mais je dirais que c'est un métier qui est arrivé à moi naturellement, qui s'est imposé à un moment comme une évidence. Et j'aime aussi dire que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Et il y a eu plein de rendez-vous comme ça qui ont défini que ce que je fais aujourd'hui est vraiment naturel. Et je me sens bien là-dedans. Apparemment, j'apporte quelque chose. Donc, tant mieux. Tant mieux. C'est ce qui m'intéresse d'apporter peut-être mon côté slave aussi. Voilà, sous regard d'une Polonaise, mais qui vit en même temps à Paris. Donc, certainement un regard un petit peu différent de gens qui sont là, qui sont nés ici. Et voilà, et puis c'est une aventure merveilleuse.
Et quand on habite en Pologne, pourquoi Paris ? Paris fait rêver le monde entier apparemment, pourtant la vie n'est pas facile à Paris. C'est...
Ben moi, Paris, c'était maman. J'y suis venue uniquement parce que c'est vrai. Et puis bon, j'avais 18 ans, c'était pas un choix. Et puis c'est difficile quand on vit...
À 18 ans, t'as quitté ta Pologne.
Oui, non, c'est exactement ça. Et c'était pas mon envie premier, c'était pas un choix... C'était plus la nécessité d'être auprès de ma mère. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai fait ce choix aujourd'hui.
Elle est toujours en vie, ta maman ?
Évidemment.
Ouais.
Elle est là.
Elle t'écoute.
Elle se porte bien. J'espère.
Ouais.
Je l'embrasse.
Comment s'appelle-t-elle ? Quel est son prénom ?
Natalia.
Natalia. Eh bien, écoutez, regardez. Agatha est en train de faire un parcours depuis 2008 maintenant. Il est remarquable. Il est 100 fois de ton parcours. Et pourtant, c'est pas un milieu facile.
Écoute, je ne sais pas s'il est remarquable.
Ah si, si je te le dis.
Mais je te remercie.
Mais... Tu me diras. Bon.
Mais je m'accroche.
Je peux me tromper, mais je trouve vraiment ton parcours remarquable. Et j'étais très, très, très étonné quand tu as accepté de répondre à mon invitation, parce que ma web radio, elle démarre. Quoi. Il n'y a pas grand monde. Il y a combien ? 150 personnes ? 200 ?
Mais moi aussi, je démarre, Jean-Claude. On démarre tous quelque part, on va quelque part, et ce n'est pas important. Ce n'est pas important. L'important, c'est oui, d'avoir envie de communiquer aussi. Pour moi aussi, c'est merveilleux de pouvoir venir ici, d'être face à toi, parce que je sais aussi qui tu es, donc je suis aussi touchée d'être là, je te remercie de cette confiance. Et puis oui, non, c'est des débuts pour moi. Moi aussi, je ne sais pas encore où j'y vais, mais je suis déjà très contente de petits chemins que j'ai faits. Et chaque expérience est une expérience merveilleuse que je prends comme un cadeau de la vie. Si ça s'arrête demain, ce n'est pas grave parce que je sais d'où je viens. Et ce sera déjà bien de toute façon.
Je savoure. Je savoure, j'écoute. Toi qui es intervieweuse habituellement.
Oui.
Tu as remarqué que beaucoup d'intervieweurs ou d'intervieweuses avaient une fâcheuse habitude à ne pas écouter les réponses.
C'est vrai.
De leurs invités et déjà d'être prêt à poser la deuxième question ou la troisième question. Est-ce que tu envisages ce métier, toi, dans l'écoute de l'autre?
J'essaye. Quand j'amène mes interviews, c'est vrai que je dirais que là, c'est la première fois que je suis de l'autre côté du micro.
C'est courageux. Hein.
Mais c'est pas facile d'être de ce côté-là aussi. De parler de soi n'est pas facile. Ce n'est pas l'exercice que je connais. Pourtant, je connais l'exercice des castings et j'ai du mal à me vendre, parce qu'il faut se vendre dans ce métier. Ce n'est pas le mot que j'aime, mais pourtant, c'est bien la réalité. Et quand je suis derrière mon micro avec mon invité face à lui, je trouve ça... J'aime ce côté intimiste, de mettre à l'aise la personne face à moi, de la faire parler, de, évidemment, de son métier, puisque c'est important, mais la personne surtout. Parce que tous ces gens-là, qu'ils soient très connus ou pas connus encore, évidemment, il y a le talent avant tout. Mais ils ont tous une histoire personnelle particulière et j'aime les histoires personnelles, j'aime savoir d'où les gens y viennent, leurs racines, leur famille, comment leurs proches vivent leur parcours. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'exercice des interviews, c'est là où je me sens bien.
Petite fille, comment se passe ta vie en Pologne? Tu te regardais souvent dans la glace? Tu parlais dans un micro?
Jamais.
Non?
Non, j'étais une fille.
Tu peux nous raconter ton enfance?
Oui.
Merci.
Je vais essayer. C'est difficile de parler de son enfance, c'est émouvant. Alors non, j'étais très complexée, très timide. Donc non, me regarder dans la glace, pas plus que pas plus que qu'une jeune fille de son âge, qui se trouvait peut-être pas très très jolie, complexée, qui savait pas trop ce qu'elle avait envie de faire, qui se cherchait beaucoup, qui était éloignée de sa maman, parce qu'il y avait ça aussi, ma maman elle était déjà en France, et j'étais beaucoup élevée entre mon papa et mes grands-parents. Donc mes grands-parents qui étaient très importants dans ma vie d'adolescence. Je pense que je me suis beaucoup cherchée. Je ne savais pas trop vers quoi j'avais envie de m'orienter. Et j'aime de dire, je le pense profondément, que ma vraie vie a commencé ici. Donc je dirais pas que je ne suis pas née ici, évidemment, mais c'est ici que je me suis construite, au niveau culturel, autant que femme. C'est ici que j'ai commencé, tout simplement, un vrai parcours, à tous les niveaux.
Est-ce que toutes ces histoires concernant les Polonais, ça t'a choqué? Parce que les Français sont souvent impitoyables.
Moi, ce qu'on me dit le plus souvent, et ça, c'est vrai que ça me fait rire, on dit est-ce que toi tu bois de la vodka? Est-ce que tous les Polonais ils boivent autant?
Est-ce que tu en bois?
Ben non, non, je bois pas spécialement de la vodka, pas plus qu'un Français qui boit du bon vin. D'ailleurs, je préfère boire du bon vin à table que boire de la vodka. Et je pense pas qu'on en boit autant, mais ce sont toutes ces petites choses que quelqu'un a entendu quelque part. On a tendance à répéter, mais ça se généralise, mais c'est pas forcément...
Un peu comme nous en France, le sandwich, le béret et,
bah, tu
et
sais
la casquette.
Tu sais ce qu'on dit, Jean-Claude, en Pologne des Français?
Que dites-vous, en Pologne des Français?
Alors moi, avant de venir, ça me faisait rire, parce que mes camarades, elles me disaient, ben maintenant tu vas aller à Paris, donc tu vas aller... Ben on dit déjà, on parle beaucoup de la cuisine française, donc on dit que les Français, bien évidemment, c'est des mangeurs de grenouilles, des escargots, donc bon, toutes les choses dégueulasses. Parce que pour nous, quand on vit là-bas, on n'a pas l'habitude de manger toutes ces choses-là, donc on dit ça aussi, donc c'est drôle. Après, évidemment, on parle de la culture française, et puis évidemment, Paris, enfin, c'est un monument. Et toute la culture, toute la richesse qu'on a ici... J'en suis ravie d'être là, de découvrir ça.
Puisque tu es polonaise, française maintenant, mais polonaise, que te reste-t-il, toi, de Lech Walesa, de Solidarność, de cette période très très tourmentée en Pologne, si tu l'as pas connue?
Alors, pas grand-chose, finalement. Personnellement, pas grand-chose, à part les discussions que j'ai pu entendre ou apercevoir de mes grands-parents, de mes parents, mais c'est plus un souvenir lointain. Auquel finalement, Je dirais pas que je ne suis pas attachée, mais je suis passée un petit peu à côté de tout ça, finalement. En étant ici, surtout, et en étant enfant, je pense qu'on est dans l'inconscience, on ne se rend pas compte.
Quelle était l'activité de papa et maman?
Alors, papa, c'est un professeur d'école.
Oui, quand je dis qu'elle était, ils sont peut-être à la retraite, non?
Papa, il est encore très actif.
Oui.
Mais bon, il a déjà pris sa retraite, mais comme c'est quelqu'un de très actif et il fait toujours beaucoup d'activités, c'est un grand sportif. Donc, il était champion au niveau régional, mais il aimait beaucoup les sports. Et il aime travailler avec des jeunes, etc. Maman, elle était ici, parce que la vie en Pologne n'était pas facile. Donc, elle a décidé de venir ici pour nous aider financièrement. Parce que, voilà, il y a quelque temps, la vie là-bas était difficile, tout simplement, et un seul salaire ou deux, ça ne suffisait pas. Donc, quand on vivait à l'étranger, quand on avait la possibilité, comme ma maman, parce que ma grand-mère, elle était ici à cette époque-là, il était plus facile de vivre mieux, entre guillemets. Sauf que bon, du coup, on était séparés de maman avec ma sœur. Donc, c'est vrai que c'est une période que je regrette dans le sens où je pense que tout l'argent du monde ne nous remplace pas comme un papa-maman à la maison. Donc, je pense qu'il y a ça comme souvenir.
Tu arrives à Paris en 1996. C'est bien ça?
Oui.
Tu fais plein de petits boulots?
Oui, pour commencer. Je parle pas français.
Oui, tu apprends à l'Alliance française, je crois,
oui,
c'est ça?
Oui, je commence à l'Alliance française. J'avais fait des différentes écoles. C'est vrai qu'au début, c'était pas évident, parce que quand on parle pas la langue et quand on n'a pas des amis, c'est pas évident.
Tu connais vraiment personne lorsque tu arrives à part ta maman?
Non, personne.
Personne?
Personne. Et puis le temps de s'adapter, d'apprendre la langue, ça prend un certain temps. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est très difficile pour moi, où je suis un peu entre l'envie de revenir en Pologne, où j'ai quand même mes camarades des classes, etc., ma famille aussi. Tout le monde est encore vivant quand j'arrive ici, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et finalement, avec le temps, évidemment, on s'adapte à tout. On prend les goûts. On voit cette possibilité qu'on a ici en France. Je trouve ça merveilleux. Je trouve que, je ne sais pas si les gens ne se rendent pas compte quand ils vivent ici, mais ici, on peut arriver à tout quand on veut. Et vraiment, moi, dès le souvenir de ma Pologne, de ma petite ville qui s'appelle Radzianków, moi là-bas, mais j'avais aucune possibilité d'évolution. Rien d'intéressant, enfin rien qui m'inspirait vraiment, rien.
C'est toi la Polonaise qui nous dit qu'ici on peut arriver en France. Alors que, il me semble qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de... Oui, la jalousie, surtout dans un milieu comme le tien, comme le mien, mais la jalousie, elle est là. Tu n'as jamais... Est-ce que tu penses que pour réussir, il faut aussi écraser l'autre?
Moi, je ne pense pas. Après, c'est un choix très personnel qui n'est pas le mien. Moi, je sais que je ne vais pas réussir à tout prix. D'ailleurs, c'est pour ça, peut-être que mon chemin est un peu atypique, n'est pas facile, parce que je ne suis absolument pas encore là où j'aimerais être. Au début, j'ai vraiment pas eu accès à de certaines castings, à de certaines ouvertures, à de certaines rendez-vous importants dans les chaînes, parce que oui, je ne suis pas connue. Oui, je n'ai peut-être pas encore de très bonnes connaissances, et on sait très bien que ça marche par les réseaux, et que oui, je ne suis pas prête à tout pour avoir un poste quelconque, donc je ne vais pas faire n'importe quoi. Je sais qui je suis, d'où je viens, mais je sais qu'il faut garder sa dignité et respect de soi, très important pour moi.
Lorsque tu dis, pardonne-moi si une de mes questions t'importune, ne te gêne pas pour me remettre à ma place. Lorsque tu dis, je ne suis pas prête à tout, tout le monde dit que dans ce métier, il faut coucher. Qu'on soit garçon ou qu'on soit fille.
C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Écoute, on me l'a jamais proposé, mais je n'ai jamais eu l'impression que ça venait naturellement et que ça a été, que c'était utile, et utile, je dirais pas que, j'avais pas l'impression qu'on me l'avait suggéré, je suis complètement passée à côté, ou je suis si naïve que j'ai rien vu venir, ou tout simplement, on me l'a jamais proposé parce qu'on a vu que c'était pas nécessaire. Je ne sais pas.
Donc, ton regard est suffisant, Agatha?
Écoute, j'espère.
Oui.
Parce que c'est vrai que ça m'intéresse pas. Et encore, je ne sais même pas si ça aide vraiment, enfin. Donc, ceux qu'ils ont choisi cette voie, qu'ils l'assument, et tant mieux pour eux, mais, Je pense qu'on peut arriver quand même. Si on a quelque chose à apporter, si on est fidèle et sincère, je pense que la sincérité, c'est quelque chose d'important. Ou ça me perdra un jour, je ne sais pas, j'hésite par moment, mais j'aime me sentir bien, enfin, peu importe de l'expérience, me sentir à l'aise et pas dans des situations ambiguës.
2008, c'est le début, c'est le commencement.
Oui. 2008, enfin, je trouve ma voie, je dirais. Parce qu'avant, je me suis vraiment cherchée entre le petit travail qui je faisais, parce qu'à Paris, il faut avoir de l'argent pour pouvoir rester là, évidemment. Il faut quand même travailler. En 2008, j'ai eu l'expérience de la radio Anguin. Et c'est une expérience. Et encore aujourd'hui, je me dis que c'était pas le hasard qui m'a ramené là-bas, vraiment. Parce que à Anguin, c'est pas à côté. Je suis partie dans la nuit pour rejoindre une équipe que je connaissais pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait fortement vers cette direction. Et puis une fois arrivée, c'était une émission qui se faisait en direct toute une nuit, de minuit à 6h du matin. Donc une émission vraiment de freestyle, pas possible, où je me sentais mal à l'aise parce que je n'osais pas d'intervenir, que j'avais des gens quand même très confirmés à côté de moi. Mais il s'est passé quelque chose ce soir-là, c'est que j'avais comme une espèce d'évidence que c'était ça, que ça m'avait vraiment plu d'être derrière mon petit micro, même si j'ai pas réussi à vraiment m'exprimer librement, mais j'ai placé quelques mots.
Fallait placer quelques mots avec Aurélien.
Voilà, toi, tu les connais, tu as bien vu que c'est des... En même temps, ils étaient obligés de faire ça la nuit, il est difficile de faire la radio, il faut être super réactif.
Il faut de l'audimat la nuit.
Oui.
De plus en plus, sur la bande FM, la nuit, il n'y a plus rien.
Oui.
Des émissions qui étaient en place, je pense à Serge Levaillant sur France Inter, avec qui je communique via Facebook aussi, des émissions qui sont en place depuis 20 ans, non, on décide que ça coûte trop cher, qu'il n'y a pas assez d'audimat, etc., etc., mais j'allais dire, putain, la qualité, mais les radios, la nuit, je suis désolé, ça tient compagnie à des personnes, à des milliers Bien de sûr. Personnes.
Par exemple là, dans les années 2008, donc mon première expérience à la radio Anguin, on avait pas mal de gens qui nous appelaient régulièrement, qui connaissaient nos prénoms, qui venaient ici comme pour avoir un certain soutien, je dirais presque, comme des amis, peut-être que ces gens-là, ils n'avaient pas des amis dans leur vie, et en nous tenant compagnie, on se tenait compagnie mutuellement en quelque sorte. Donc je pense que ces radios sont utiles. Maintenant, pour moi, vu que j'avais jamais cette expérience avant, que j'étais quand même un petit peu en retrait, réservée, je dirais que j'étais contente d'avoir pu ensuite passer par une école, apprendre et me perfectionner autrement, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je sais où ça commençait. Je sais que c'était la révélation, c'était cette expérience-là, oui.
Donc c'est la première expérience de radio
oui.
que tu as depuis que tu es arrivée à Paris.
Oui.
C'est un peu bizarre la nuit quand même. L'atmosphère, elle est...
Oui, mais ça faisait une certaine magie aussi de se retrouver comme ça.
Parce que tu aimes la nuit. Moi, je sais que tu aimes la nuit.
Moi, j'aime travailler la nuit.
Tu aimes travailler la nuit. C'est le moment où on est...
C'est là que j'écris le mieux. J'arrive à me concentrer, que je suis très inspirée. Que c'est là que j'écris mes chroniques rapidement, sans trop réfléchir. Et c'est vrai que je me couche très tard.
Donc IDFM, Radio Anguin.
Oui.
Et puis il y a la rencontre de l'Académie audiovisuelle.
Oui, la rencontre.
Ça se fait en même temps pratiquement ou...
Oui, tout arrive à peu près en même temps. Ce qui est drôle, c'est que parallèlement de ces expériences, je travaille à l'accueil de TF1. Donc je fais un métier qui n'a rien à voir avec celui que je fais aujourd'hui. Mais je suis quand même à TF1 pendant 5 ans. Je suis manager. Et je gère des personnalités, des invités, etc. Et ça aussi, je pense que c'était pas un hasard. C'est un métier très difficile que je fais.
Qui tu rencontres? Tu es en contact avec le public ou avec les invités, avec les...
Avec les animateurs.
Les animateurs.
Ouais. Avec des invités de la chaîne, avec des gens politiques, avec des invités que j'accompagne sur les plateaux. Enfin, je suis en relation avec tout le monde. Tous les mondes audiovisuels.
Quel est ton meilleur souvenir? Pas le moins bon. Le plus beau souvenir, la plus belle rencontre que tu as pu avoir sur...
Alors ça, j'en ai fait beaucoup de belles rencontres.
C'est difficile de faire un choix.
Oui, parce que j'aimerais pas mettre quelqu'un à l'ombre. Il y en a tellement de gens merveilleux autour de moi aujourd'hui qu'ils ont été là aussi quand je faisais ce métier autre. Et on sait très bien qu'en France, on aime malheureusement mettre des gens dans une case. Moi, je suis sortie de cette case accueil et j'en suis ravie, parce que ça m'a permis de réaliser mon rêve aujourd'hui en quelque sorte, même si je ne suis pas encore là, mais j'y suis déjà quand même, j'ai mon premier pied dedans. Mais je pense que les bonnes rencontres étaient en quelque chose, pour quelque chose dans mon parcours.
Mais personne ne t'a rien proposé sur TF1 ?
Non.
Non ?
Non, mais on m'a beaucoup encouragé par contre.
Vous l'avez remarqué, Agatha ne cite aucune personne hein, dans celle qu'elle a rencontrée en ayant un excellent souvenir. J'aurais bien aimé, tu sais, nous sommes friands, nous gens de médias, on aime bien savoir qui elle aime.
Mais il y en a eu tellement.
Il y en a qui aiment savoir qui il aime pas, mais bon.
Non, ça je me permettrai pas. Et pourtant, j'en sais des choses.
C'est vrai ?
Ben oui, évidemment, parce que quand on travaille à ce niveau-là, en bas d'une échelle finalement, ben les gens, je dirais qu'ils sont très à l'aise devant nous. Donc oui, on voit les gens dans leur beau jour, mais pas que.
Bon, donc, c'est un livre à écrire dans quelques années.
Ben alors écoute, je pense que je pourrais, oui, sortir.
Tu prends des notes ?
Non, je me rappelle très bien de
tout
ça.
Un petit carnet à toi. Tu sais, beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes ont un journal intime, et tous les soirs.
Comme Anne Frank.
Oui. Oui. Bah, justement, tu peux en parler aussi.
Oui, oui, c'est vrai. Hein? Écoute, non, parce que je les garde en mémoire. Je ne sais pas si vraiment ça intéresserait quelqu'un. Et puis, comme on dit, je vais pas cracher sur quelque chose où j'y étais. Je me suis sentie très bien. J'étais quand même très bien traitée, attention. C'était un choix. Et ça m'a permis d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis très contente. C'est une très grande maison. Les big boss, c'est un grand monsieur, très respectueux, je pense que c'est important aussi. Donc on se sentait quand même bien. Maintenant, le métier est un métier difficile en soi. On est au service des autres, donc c'est pas facile au quotidien. Évidemment, il y en a ceux qui nous respectent et il y a ceux qui essaient de nous écraser. Donc écoute, on fait avec, comme dans tous les métiers, il y a des hauts, des jours plus faciles, des jours noirs, etc. Mais en soi, je suis contente parce que ça m'a ramené à des rencontres, oui. Ça m'a ramené... à me rapprocher de ça, de tous ces gens, de tous ces présentateurs, de voir de plus près comment ça se passe, les coulisses des émissions, etc. J'ai senti aussi qu'il s'est passé des choses quand j'étais sur un plateau télé, que ça me plaisait, que ça m'équiquinait un peu, mais j'osais pas encore. Je n'osais pas me dire à voix haute, j'aimerais faire de la télé. Je trouvais ça très prétentieux d'ailleurs de dire j'aimerais faire de la télé, tout simplement. Ensuite, j'ai discuté par exemple avec Sébastien Follin qui faisait encore la météo donc quand j'étais à TF1 et j'avais envie de venir sur les plateaux. Je me suis dit peut-être que j'en aurais pu présenter la météo, peut-être que là on m'accepterait. Et lui il rigolait, il me disait de venir pour assister à ses émissions pour que je puisse voir comment ça se passe. Donc bon, ça c'était une première idée un peu comme ça, un peu naïve et un peu floue parce que je ne voyais pas trop. Ensuite j'ai rencontré donc Richard Joffo qui m'a parlé de l'Académie du Visuel.
Qui nous écoute sûrement.
Mais j'espère.
Que nous saluons tous les deux.
Évidemment, avec grand plaisir d'ailleurs. Et là, c'était un autre challenge, parce que là, c'était vraiment se mettre face à cette envie qui n'était encore pas très très claire, mais qui était quand même au fond de moi. Un challenge d'aller dans cette école, passer les auditions, voilà, de recommencer un petit peu à zéro. De se mettre face aux gens que je connais pas, un métier que je connais pas, et de voir si j'ai ma place. Donc c'était un grand défi pour moi. Je me rappelle que j'avais très très peur. Et finalement, une fois que c'était fait, une fois que j'ai passé les auditions, une fois que j'ai passé mes cours, hein, ça fait tellement du bien.
Et qu'est-ce que ça peut représenter pour une jeune femme? Une caméra? Parce que, on nous entend ou on nous voit. On ne sait pas. Pratiquement jamais, on ne sait pas tout le travail qu'il y a en amont. La préparation, le trac, les incertitudes, les remises en cause, les remises en question.
Constant.
Beaucoup pensent que nous sommes, nous vivons sur un petit nuage, on arrive, maquillage, bonjour, tout va bien. Ça se passe comment pour
alors,
toi,
ça, c'est la partie, je dirais, les gens, ils voient peut-être un petit peu, entre guillemets, les paillettes. Évidemment que ce n'est pas du tout ça. Il y a tout un travail en amont. Tout dépend de ce qu'on fait. Moi, mon première expérience après l'Académie audiovisuelle, c'était d'abord les rendez-vous d'Agatha. Donc ça, c'était mon propre concept. Et c'était l'exercice des interviews que j'avais choisi parce que l'année où j'ai suivi mes cours, naturellement, chacun trouvait ce qu'il aimait le plus et pour quelle direction il avait le plus de capacités. Et moi, mon ton qui est assez posé, assez doux, je pense que tu as pu le remarquer, Jean-Claude, je ne suis pas quelqu'un de très agressif, il était évident que dans les interviews, ce sera un plus. Et j'ai commencé par les interviews de personnalités.
Quand tu interviews, je fais un petit condensé tout à l'heure, Nikos Aliagas, j'ai le sentiment qu'il ne te regarde, qu'il n'écoute pas tes questions, qu'il regarde la jolie femme que tu es. Et mais je dis ce que l'on voit de l'extérieur, hein, quand on n'est pas dans le bain. Par contre, je sens que Grand Corps Malade, il est totalement captivé.
Mais je pense qu'ils étaient tous...
Parce que l'approche de deux hommes aussi différents... Que ces deux-là...
Pour moi, c'était différent aussi. Mmh. De toute façon, à chaque fois, c'est différent, que ce soit une personnalité, enfin, que ce soit un journaliste ou un chanteur. Ou récemment, par exemple, moi, je suis bouleversée à chaque fois. Chaque rencontre, c'est différent. Peu importe de la notoriété des gens. C'est une rencontre humaine qui est belle avant tout, et chacun a des petites choses à nous dire, surprenantes. Moi, celle qui m'avait marquée récemment, ma dernière dans les rendez-vous d'Agatha, c'était... La rencontre avec Roxane Duran, qui joue actuellement au théâtre Rive Gauche, Anne Frank. Et j'en parle, j'ai la chair de poule, parce que de rencontrer cette femme enfant.
Avec un immense comédien aussi.
Francis Huster.
Oublier Francis.
Évidemment. J'allais l'interviewer aussi. Finalement, j'ai interviewé Roxane. Mais cette rencontre avec cette femme enfant, qui a 19 ans, et pour elle, c'est une vraie première rôle au théâtre, qui est confronté à un tel monument que l'histoire d'Anne Frank, c'était très émouvant pour moi. Elle était aussi émue, elle n'a pas encore l'habitude des interviews, donc elle est confiante, inquiète, toute fraîche, toute sensible. Et pour moi aussi, il s'est passé quelque chose, surtout qu'avant, j'ai plus eu l'habitude d'interviewer des hommes, donc c'est quand même différent. Et j'aimais bien l'exercice d'être face à une jeune femme qui a des choses incroyables et qui a une présence imposante à 19 ans, elle dégage quelque chose de très fort, et sur scène, elle est fabuleuse, vraiment.
Lorsque tu dis une rencontre de cœur à cœur, d'âme à âme, j'allais dire.
Ah oui, mais je crois, je me base vraiment sur ce qu'on me dit par rapport aux gens qui ont regardé les rendez-vous d'Agatha ou qui ont pu assister, et même les personnes qui sont face à moi qui me disent après, ben merci, c'était super, j'ai passé un bon moment, j'avais envie de me confier à toi, tu m'as mis à l'aise, j'avais l'impression de discuter avec une amie. C'est vraiment ça en fait, j'aime parler avec des gens simplement. Je ne suis pas là pour leur poser des questions pièges, pour les mettre mal à l'aise. Je ne suis pas dans cette démarche.
Agatha, si un jour la célébrité qui te guette, tu sens que tu resteras telle que tu es aujourd'hui ? Est-ce que tu le sens ? Est-ce que tu le ressens ?
Moi, je pense que je ne pense pas qu'on peut changer encore, ni à mon âge, ni avec mon expérience, ni avec mes racines. Comme je t'ai dit tout à l'heure, de là d'où je viens, je sais très bien tous ces côtés. Et puis, enfin, tout est tellement éphémère dans ce milieu. Donc, même si ça ne marche pas, je veux dire, même si j'arrive pas très haut, ou je ne suis pas connue, ou sur une grande chaîne, ce n'est pas grave, parce que toutes ces rencontres auxquelles j'ai déjà pu avoir accès, c'est déjà merveilleux. Je me suis déjà enrichie au niveau culturel, au niveau humain. Quelle belle rencontre, quelle belle confidence qu'on m'a faite. On m'a fait quand même confiance sans que je sois connue. Moi aussi, je suis reconnaissante de ces gens qu'ils ont, comme ce que tu m'as dit tout à l'heure, je suis ravie d'être là et tu es content que je sois là. Mais moi, c'est pareil. Chaque personne qui me dit oui pour un interview, qui va être probablement uniquement diffusé sur le web, bon, sur mon site aussi, les rendez-vous d'Agatha, évidemment. Mais bon, moi, je ne sais pas combien de gens vont les regarder, donc je ne peux pas leur dire, vous allez avoir une superbe audience, je n'en sais rien. Donc je leur dis simplement, je ne sais pas ce que je pourrais faire après. Je vais essayer de le placer dans une... en télé, évidemment, tout le monde va passer en télé. Mais je ne vous promets rien. Et en fait, ils me font confiance, et c'est ça qui est merveilleux.
Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Tu me rappelles une conversation avec une amie, cette conversation date de 24 heures ou de 48 heures, un chanteur très 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 connu, adoré et détesté en même temps, qui a dit « Ok, je viendrai, je sais très bien que ça débute, mais je viendrai parce que j'ai envie de partager des moments qui ne soient pas les moments habituels que l'on retrouve à la radio ou à la télévision. » Je ferme la parenthèse. Quand tu es arrivé tout à l'heure dans le studio, mon fils Vincent... a débarqué de Reims, là il s'en va bientôt dans le sud de la France, recommencer sa vie, et il était très content, c'est lui qui t'a accueilli,
oui.
Et puis ça s'est décidé, mais vraiment au dernier moment, dans ma tête, lui n'est pas au courant, il s'avère que Vincent est chanteur.
D'accord, il ne me l'a pas dit tout à l'heure.
Il est discret,
Oui, j'ai vu.
Il est discret. Mmh. Et si tu veux écouter, puis ce serait intéressant d'avoir le regard d'une femme de télévision qui connaît aussi, qui interviewe des chanteurs, et il y en aura dans le courant de l'émission, mais que tu me dises ce que tu penses de ça.
Avec plaisir.
Le clown est fatigué de faire le clown ce soir, et il en a assez de masquer son regard. Il en a trop fait rire des hommes et des enfants qui viennent l'applaudir pendant qu'il perd son sang. Ce soir, je ne joue plus la divine comédie. Ce soir, je suis tout nu au milieu de ma vie. Ce soir, le clown a peur d'être tout seul, il pleure. Ce soir, il redevient un homme et son chagrin. Ce soir, ce soir, devant vous, il a peur. Il en a vu des villes, il en a fait des tours. Mais que lui reste-t-il d'amour après l'amour? La nuit est revenue, la foule est repartie. Et je reste tout nu au milieu de ma vie. Qu'importe les bravos, ils ne remplacent pas les gestes ni les mots que tu avais pour moi.
Ça te plaît?
C'est magnifique. Mais tu as une voix. Je me permets de m'adresser à lui. Bravo, tu as une voix d'une sensibilité. Très émouvant. Très belle voix.
Oh, depuis qu'il a l'âge de 3 ans et demi, il rêve d'être chanteur.
Mais il faut y aller jusqu'au bout. Il faut y croire avec une telle voix. Il ne faut pas passer à côté.
Mais je t'assure, il y a 10 minutes avant que tu arrives, tu t'as très en avance par rapport à notre rendez-vous. C'est que je me suis dit, tiens, je vais lui offrir cette chanson de Vincent.
Je te remercie. Hein? Très, très belle.
Parce que nous sommes aussi des clowns à notre façon. Nous aussi, nous souffrons. Les clowns, souvent, font les couillons devant le public, mais il y a des clowns qui se suicident. Mm. Tu n'as pas connu chez Zavata?
Non.
Non. Un jour, il s'est tiré une balle dans la tête. Ou dans la bouche, plus exactement. C'est un très grand clown. Un des plus grands clowns français que nous ayons eu. Donc les clowns, de temps en temps...
C'est pas forcément ceux qui ont l'air les plus heureux, qui font rire les autres, qui y sont réellement. Hein.
Il t'arrive d'être triste quand tu sors d'un plateau, quand tu te retrouves le soir chez toi, seul, d'avoir des regrets ou des remords ou de la tristesse?
Alors, c'est pas exactement ça, parce que quand on sort d'un enregistrement ou d'un plateau, on est très euphorique. Et j'aime d'ailleurs tout ce qui va autour de ce métier. La peur, l'impréhension qu'il y a avant, évidemment, beaucoup de concentration, beaucoup de préparation, des heures de travail, évidemment. Ensuite, quand on arrive sur un plateau, c'est le stress. Donc, on a cette boule au ventre, on a peur de bafouiner, de ne pas pouvoir exprimer tout ce qu'on a préparé pourtant auparavant, tout simplement de passer à côté de quelque chose. On a peur aussi des questions qu'on peut nous poser, auxquelles on peut ne pas être prêt. Donc oui, c'est tout un challenge évidemment à chaque fois. Et après, c'est une mélange de sentiments plutôt agréables, parce que c'est très euphorique, c'est très excitant aussi, quand tout se termine et quand tout s'est bien passé, évidemment. J'ai eu de la chance, j'ai toujours du bois. Que ça s'est toujours bien passé. Les gens, ils ont toujours l'air contents, que ce soit pendant les interviews ou les chroniques télé que j'avais fait à IDFM pendant 10 mois ensuite, très régulièrement. Que c'était une bonne équipe, on le faisait dans la joie et bonne humeur et bon enfant, et sans que ça soit ambigu ou sans que ça soit moche, quoi. Et ça fait du bien, quand il y a des bons échanges comme ça, humains, sincères. Et après, il y a aussi une autre phase. Ça veut dire que quand toutes les activités cessent, s'arrêtent, et quand on ne sait pas quand est-ce que ça reprend, et là oui, là je déprime.
C'est-à-dire que ton emploi du temps pour l'instant n'est pas surbooké, tu as du temps devant toi.
Alors c'est vraiment par vague.
Oui.
C'est vraiment par vague, et je me rends compte que quand je suis débordée d'activités, c'est là que je suis la plus heureuse. Et même si je suis épuisée, je ne sais pas où mettre ma tête, et je travaille sur plusieurs projets, il y a une espèce d'énergie, d'une bonne énergie qui me pousse en avant, même s'il y a le stress, l'adrénaline, l'impréhension, je dirais que ça me donne des ailes. Et dès que tout s'arrête un tout petit peu, et pourtant, même si je me suis dit auparavant, dès que ça s'arrête, je vais me reposer, je vais profiter, mais en fait, j'arrive pas parce que je suis triste que ça s'arrête et j'ai hâte que ça reprenne, ça me manque. Et je pense qu'on peut comparer ça à la drogue. On en prend goût et on en veut, on en demande.
Mais c'est pour toi, Agatha. C'est pour te regarder à la télévision, pour te voir devant la caméra. Qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait avancer?
Alors non, c'est pas du tout de me voir. C'est vraiment...
Parce que nous avons tous un côté un peu exhibitionniste dans un milieu comme
alors,
le nôtre.
Moi, je pense que ça part
non
plus une fois de plus. Par exemple, quand je suivais les cours à l'Académie du Visuel. Richard nous faisait un exercice, c'est quand on se mettait devant la classe, devant tous les élèves comme ça, et chacun devait dire pourquoi il voulait faire ce métier. Et c'était drôle parce que la plupart des temps, tout le monde disait ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai rêvé de faire de la télé depuis que je suis petite. Et moi, j'ai jamais rêvé de ça, parce que j'étais quand même quelqu'un de très réservé, très timide. Et je crois qu'aujourd'hui, en étant dans cet exercice, ça me permet aussi peut-être de vaincre ce démon d'enfance, de la petite fille complexée. Mais c'est pas pour me regarder. Ça, c'est difficile de se regarder. Je m'écoute beaucoup. Je suis très exigeante avec mes contenus. Même si l'émission s'était bien passée, j'attends de la voir et de m'écouter.
Il t'arrive de ne pas être satisfaite de ce que tu as fait, oui.
Évidemment.
Mais tu m'aurais dit le contraire, j'aurais dit.
Ah non, mais non. On n'est jamais satisfait complètement. Oh. À chaque fois, on a pas un regret, mais on s'est dit, tiens, parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière, toutes les heures de préparation, et je me dis parfois, mince, tu t'es préparé à dire ça, évidemment.
Et rien ne s'est passé comme tu l'avais prévu. Ou presque,
oui.
Parce que la radio, c'est différent de la télévision. Là, vous avez un circuit à respecter, tout un travail de préparation sur lequel vous pouvez pas broder ni quoi que ce soit. Nous ici à la radio, on est cool, on est décontracté, on peut passer d'un sujet à un autre. Là, tout est carré, définitif, tracé.
Il y a un timing à respecter surtout. Donc si dans ton contenu, tu t'es mal positionné dès le début, il y a des choses que tu pourras pas dire qui sont quand même peut-être beaucoup plus importante que d'autres. Donc, c'est quand même très important de bien travailler les sujets.
Excuse-moi, je t'interromps parce que on nous suit beaucoup et j'en ai pas mal qui me disent « Bon, il est l'heure, il faut que je retourne chez moi. » Ils regardent peut-être l'émission sur leur PC à leur bureau. Oui, cette émission est enregistrée, bien entendu. Elle sera rediffusée. Même la vidéo, elle sera disponible. Voilà, c'est
super.
Pour les prévenir que on essaie de faire le mieux possible. Donc, la télévision ne permet aucun écart. Il n'y a pas de fantaisie possible.
Je pense que ça dépend des chaînes. Je pense que j'ai eu de la chance de commencer sur IDF1. J'ai été pendant 10 mois, juste après l'Académie du Visuel, j'ai été chroniqueuse dans l'émission IDF1 Midi pendant 10 mois, très régulièrement.
Elle n'est pas très connue. Si tu veux parler d'elle, de cette année sur le câble.
Écoute, hein, IDF1, Île-de-France.
Oui.
Et c'est oui sur la TNT, c'est celle qu'on connaît le plus facilement pour la décrire. Mmh. C'est celle qui est très fidèle au Hélène et Garçon, et qui a créé tous ces sitcoms et qui marchent toujours très bien.
C'est les anciens de l'équipe à Dorothée, hein, oui, il me semble. Hein.
Oui, mais c'est exactement ça. Donc ils ont fait une émission que j'aimais beaucoup, IDF1 Midi, qui était très fédérateur, très sympa, avec une jeune équipe. Et j'intervenais régulièrement. Et ce qui est bien quand on intervient régulièrement, c'est qu'on crée des liens avec des gens, des animateurs, des chroniqueurs, on se connaît un petit peu plus. Donc là, on peut se permettre une certaine fantaisie. Quand tu connais personne, je pense que c'est difficile. Mais là, on partait de... Il nous est arrivé d'avoir de fous rires, c'était en direct. Mmh. Donc oui, tu me diras, en effet, il y a peut-être que des gens qui diront, oui, des fins, il n'y a personne qui regarde ça. Mmh. Mais écoutez, si, il y avait des gens...
Il y a toi, il y a moi, on est au moins déjà, il y en a d'autres.
Mais j'en connais beaucoup d'autres qui me suivent encore aujourd'hui et qui ont fait ma connaissance, je dirais, là-bas. Et qu'ils ont aimé ce qu'on faisait. Et qu'ils disaient que ça faisait du bien parce qu'on ramenait quelque chose, parce qu'on racontait quelque chose, qu'il y avait un message, qu'il y avait une histoire, qu'il y avait des idées. Moi, j'aimais bien parler de bons plans. J'aimais bien dire, bon, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, ben voilà, j'ai vu cette expo, j'ai vu cette pièce de théâtre, c'est super, allez-y en famille avec vos enfants. Ou si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, j'aimais bien aussi de trouver des petites activités pour les petits. Parce que je sais que c'était peut-être plus un public familial. Maintenant... Je pense que peu importe combien de gens nous regardent, on se doit, au moment qu'on a décidé d'être à la télé, on se doit de passer un message, de parler des choses intéressantes qui peuvent être utiles aux gens. Je pense pas qu'on peut juste y aller pour ne rien dire. En fait, en tout cas, ça m'intéresse pas. J'y vais parce que j'aime raconter des histoires. Des choses ludiques, des choses qui font, peut-être pas qui font rêver, mais qui font du bien. Parce que le quotidien de tout le monde n'est pas simple, qu'il y a des gens qui vivent des drames, et je trouve que, je me dis très souvent, j'ai beaucoup de chance dans la vie.
C'est aussi notre rôle, à nous animateurs de radio, de télévision, d'aider les gens à rêver un peu, même si le retour sur Terre est parfois brutal, mais...
De les accompagner, de les faire rire, de leur donner des idées. Parfois les gens, ils savent pas que... d'aller voir une exposition, ça coûte rien. Ils pensent que ça coûte cher. Vous savez, moi, ce que j'adore à Paris, dans la vie culturelle, tout ce qu'on peut faire, tous les jours, on a un choix. Des pièces de théâtre, des expositions, des vernissages.
Oui, mais nous avons de la chance. Je t'interromps, pardonne-moi.
Je t'en prie.
Nous avons de la chance, nous sommes invités. Nous sommes invités, souvent.
Mais oui, non,
nous ne sommes pas obligés d'y aller, mais quand tu parles du journal d'Al Franck, en ce moment, là, la pièce a démarré. Tu y as été
évidemment.
Assisté à la deuxième représentation. Ça vaut la peine d'y aller, ouais. Oh,
alors, écoutez, moi.
Pour qui? Pour Francis Huster, qui est un de mes chouchous.
Alors, écoutez.
Et qui ne ressemble absolument pas à Gérard Philippe. Il est Francis Huster, point.
Alors, oui, quel grand acteur, hein. Quelle présence sur scène, mon Dieu. Pas que pour lui, évidemment, que lui, on les met en devant et c'est normal. Mais pour tous, ils sont neufs comédiens sur scène. Et je suis allée voir cette pièce. J'avais lu le livre auparavant. Évidemment, il m'a bouleversée. Je pense qu'il a bouleversé. 25 millions d'exemplaires ont été vendus. Donc, je pense que les chiffres, elles parlent d'elles-mêmes. Mais de découvrir cette histoire sur scène, ce qui est problématique parfois dans les pièces de théâtre, c'est que quand on a vécu un livre, quand on a lu, on l'a dévoré, on l'a aimé, parfois, il arrive qu'on va au théâtre, on est un petit peu déçu. Parce que ça n'arrive pas à l'auteur de livres. Et là, écoutez, il s'est passé quelque chose. J'ai trouvé tous merveilleux. La petite Roxane Duran, la petite, elle a déjà tout d'une grande artiste. Francis, mais tous les autres comédiens. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne jouent pas ce genre-là, mais ils la vivent. Je ne suis jamais sortie d'un théâtre, la gorge serrée d'émotion. C'est la première fois, vraiment. J'étais... Puis il y avait un silence dans le théâtre qui m'avait frappé. J'ai jamais entendu un tel silence respectueux de la part du public. Je crois que si une mouche, elle volait, elle ferait trop de bruit. C'est un très très grand moment théâtral.
Entre le cinéma et le théâtre, où va ta préférence? Le théâtre?
Oui, ouais. J'y vais très
J'ai fait la
cinéma.
Réponse à ta place, pardonne-moi.
Non, c'est vrai. Et puis je trouve ça tellement enrichissant. Cette possibilité qu'on a, mais que les gens ils ont aussi, mais parfois ils pensent que tout coûte cher. Parfois ça coûte pas si cher que ça, il suffit de regarder les vernissages, les expositions. Et c'est tellement merveilleux, ça fait tellement du bien de s'évader aussi de nos quotidiens à travers de tous ces artistes qu'on a quand même à Paris.
Et puis nous avons la chance à Paris d'avoir plein de lieux, d'endroits où c'est gratuit, où on peut aller visiter, rentrer dans des galeries sans forcément payer.
Oui, non, bien sûr. Et c'est ce que, à IDF1, en fait, j'ai l'impression que mes chroniques qui sont, que naturellement je me suis dirigée vers la culture, vers des événements, que ce soit des expositions, pièces de théâtre ou autres, j'ai l'impression que ça apportait quelque chose parce que j'avais reçu après pas mal de des emails de gens qui me disaient ben merci Agatha, grâce à vous, ben voilà, c'est ce qu'on va faire ce week-end, on va faire l'exposition que vous nous avez dit au musée des arts décoratifs et on va aller se promener au jardin de Tuileries en famille parce qu'enfin parfois il faut juste un petit peu d'imagination. On peut faire tellement de choses à Paris, ce qui est merveilleux.
Ta rencontre avec Grand Corps Malade.
Très belle rencontre, très émouvant.
Il est aussi abordable.
Oui, oui, ouais. Évidemment, quelle simplicité. Quelle simplicité d'un grand artiste et quelle présence. J'étais très émue de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui est très touchant, très sincère dans sa manière de parler, très simple.
Sais-tu pourquoi je fais allusion à Fabien?
Oui.
Parce que je crois savoir aussi que tu es très connecté vers certaines maladies, vers le handicap. J'ai vu une photo de toi avec une petite fille. Les artistes, ils en parlent beaucoup, c'est un petit peu leur jardin secret, mais toi, tu as osé communiquer.
Mais alors pourquoi je communique? Parce que tout d'abord, il y a plusieurs causes qui me tiennent aujourd'hui à cœur. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets en avant? Est-ce que je les cache? Je sais qu'il y a des gens qui cachent ça. Parce que ça peut paraître prétentieux aussi, de dire, voilà, moi j'ai fait ça. Je ne fais pas ça pour que les gens disent, c'est bien ce qu'elle fait. Ça, on s'en fout. Je le fais pour que les gens y sachent que ces gens existent, qu'ils en ont besoin de nous. Pas toujours, parce qu'on a tout de suite peur, oui, ils vont nous demander de l'argent. Évidemment que chaque association a besoin d'argent, ça on le sait. Mais parfois, ils ont besoin juste des bénévoles qui viennent et qui soient là. Et tu sais, Jean-Claude, moi, la plus grande, le moment émouvant dans ce genre de rencontre, c'est il y a quelques années. J'y suis allée, et je dirais encore, et pas au hasard, certainement pas, voir un spectacle, ça s'appelait Festivois. Donc, bon, je ne savais pas trop ce que ça devait être. Je savais juste que c'était caritatif, qu'il s'agissait de personnes handicapées. Et je me suis retrouvée dans la salle où il y avait en effet des personnes handicapées qui chantaient. Et après, on m'a présenté toutes ces gens qui s'occupent de cette fédération. Donc ça s'appelle Handivoix. C'est des fédérations de personnes handicapées, de chorales de personnes handicapées. Ça permet de tous les handicapés de la France entière de se réunir et de chanter ensemble sur une scène. Et une année, cette association s'est associée avec une association polonaise qui s'appelle Aigle Blanc. Et c'est comme ça que je suis arrivée, moi, là-dedans. Et ils ont réussi à faire venir des enfants handicapés de Cracovie qui sont venus. Alors écoute, j'ai la chair de poule encore. Des enfants qui n'ont jamais voyagé de leur vie, qui n'ont jamais quitté leur Pologne natale. Donc déjà, ils viennent à Paris. Ils viennent pour chanter sur scène avec d'autres chorales, des personnes handicapées également. Et pour moi, c'était une rencontre merveilleuse. Et on m'avait dit, viens Agatha, on va les accompagner toute une journée en balade à Paris. Et je comprenais pas pourquoi ma présence était importante. Je disais, ben non, ils me connaissent pas. Je ne peux rien apporter parce que je ne peux rien faire, enfin. Et on m'a dit juste, viens, tu seras là. C'est déjà un merveilleux cadeau que tu sois là. Et ces enfants, ils m'ont tellement rendu. Et pourtant, je n'ai rien fait. Tu comprends? C'est ça qui m'a touchée. C'est pour ça, rien que le fait d'être là, de les regarder. Parce que depuis, je soutiens vraiment Handivoix. Parce que je me suis rendu compte que quand ils sont sur scène et quand ils voient que la salle, elle est vide. Tu imagines? Enfin, ils ont besoin qu'on les regarde, qu'on les applaudisse, qu'on soit là. Et c'est tellement peu. C'est juste un peu de temps et on a tous notre temps.
Tu pourras leur transmettre qu'ils seront les bienvenus ici.
Bah, ça me ferait très plaisir. Je le dirai à Joël. C'est Joël qui a créé cette fédération. Et je suis devenue assez naturellement leur ambassadrice. C'est le mot qui me gêne un peu. Mais c'est cette première cause que, à côté de laquelle, en effet, je peux pas faire beaucoup. Mais quand je peux, j'en parle. Et c'était vraiment un grand moment d'émotion pour moi. Donc je vois pas pourquoi ne pas en parler. Si j'en parle pas, personne ne saura que c'est bien d'y aller et d'être sans donner de l'argent.
Tu sais, ou tu ne sais peut-être pas, mais en France, à part le Téléthon, tous les ans, la parole n'est pas beaucoup donnée aux personnes en situation de handicap, aux personnes handicapées. Je sais qu'il y a une chaîne de radio qui s'appelle Vivre FM. Tu vois, moi, j'hésite pas à parler de la concurrence parce que la concurrence, elle n'existe pas. Nom de Dieu, qu'est-ce que j'aimerais qu'on soit dans le partage. Quelques jours, nous discutions tous les deux. C'était la première fois que nous discutions. Et je t'ai dit, je ne sais pas si tu te souviens, mais toi et moi, Agatha, nous sommes là pour que les gens soient heureux et rient ensemble. Tu t'en souviens?
Oui, c'est vrai. Mais écoute, j'espère. Mais je trouve ça tellement important de communiquer. C'est vrai que je me suis interrogée sur un moment, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait Handivoix, et que naturellement, il y avait d'autres associations aussi qui sont à côté, qui sont devenues importantes aussi pour moi. Donc il y avait cette petite fille que tu as vue sur la photo. C'est pareil, c'est pas le hasard, j'ai vu un groupe sur un réseau social. Et j'ai vu la photo de cette fille, on m'a parlé de sa maladie grave, et tu voyais son petit sourire innocent. Et en fait, on nous demandait pas grand chose, on nous demandait juste de la soutenir, de lui envoyer un message. Et je me suis dit, mais enfin, c'est rien. Comment on peut ne rien faire? Donc elle s'appelle Laura. Je l'embrasse, je pense pas qu'elle nous écoute, parce que je pensais pas que je vais parler d'elle.
Tu lui diras l'émission.
Oui, mais j'ai pu la rencontrer, j'ai envoyé une petite carte postale. Et j'ai demandé à son père, donc j'envoyais un message sur cette page, et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Laura? Qu'est-ce qu'elle aime, Laura? Quels sont les artistes qu'elle aime? Est-ce que je peux peut-être que je peux obtenir un petit mot de la part de gens qu'elle aime? Et son papa, il était très touché de ma démarche. Il m'a dit qu'elle aimait beaucoup Nolwenn et Nikos. Donc j'ai pris contact avec les deux. Et j'étais très contente parce que très vite, j'en ai reçu de la part de tous les deux un petit mot dédicacé avec un petit message de la part de tous les deux. Et cette petite fille, quand je lui donnais ça, je te raconte pas. Enfin, c'était un moment de joie. Je voyais des étincelles dans ses yeux. C'est juste un petit moment de magie, mais apparemment, c'est tellement important pour ces gens. Je pense que ça restera un beau souvenir. Il y a eu d'autres gens. Elle a eu beaucoup de témoignages. Et je suis contente que finalement, ces réseaux sociaux servent aussi à ça. Et c'est ça que j'aime. On me dit oui. C'est pas bien les réseaux sociaux. Tout dépend comment. Non, mais c'est vrai.
Mais ceux qui disent c'est pas bien, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas.
Parce qu'ils savent pas les utiliser, Jean-Claude.
Mais bien sûr.
Mais moi, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Je suis contente de cette jeune fille.
Grâce à Facebook, je t'ai retrouvé, je te connaissais, oui. Mais j'osais pas t'aborder parce qu'il y a toujours une espèce de retenue. Non, sérieusement, il y a toujours une espèce de retenue entre animateurs de radio, de télévision. Je citerai pas de nom, mais il y en a qui se complaisent à se retrouver régulièrement les uns avec les autres et à s'auto-congratuler, à s'auto-féliciter. Mais moi, quand tu m'as dit je viens, ça paraît con peut-être, mais ça paraît idiot, ça paraît stupide, mais je sais pas, Drucker, si un jour il veut venir, bien sûr, mais je lui dirai pas merci. Moi, ce que j'aurais envie, c'est de lui poser des questions un petit peu différentes de ce que j'entends, parce qu'ils me déçoivent souvent. Ils sont toujours en train de se faire des félicitations. T'es le meilleur. Non, attends, ils ont des vies aussi, mais peut-être qu'ils veulent les préserver. Et puis, pendant que j'y pense, pour ne pas l'oublier, il y a une question que j'avais pas du tout préparée, mais qui vient instantanément. Tu as parlé de chroniqueurs. C'est très à la mode maintenant que les animateurs, les journalistes, les animateurs vedettes s'entourent de chroniqueurs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est nouveau, hein, c'est un phénomène nouveau. Ça doit dater d'il y a 2 ans et demi, 3 ans. Bon, Pollack l'avait inventé il y a très très longtemps. C'est indispensable.
Je pense pas que c'est indispensable, mais je trouve ça intéressant. Tu sais, je regarde très peu la télé depuis quelques temps. Parce qu'il n'y a pas des émissions comme j'aime. Et d'ailleurs, celle que j'aime, c'est celle qui est ma préférée, celle qui me fait voyager. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans la télé, c'est qu'on peut voyager, mais pas assez, selon moi. C'est les rendez-vous en terre inconnue. Frédéric Lopez, J'adore. C'est, voilà, moi j'aime ça. J'aime voyager, j'aime découvrir d'autres cultures. Je ne sais pas si c'est le fait que moi aussi j'en suis de quelque part ou pas, mais cette émission me fait du bien parce qu'il y a de l'émotion. On apprend. Et voilà, pendant un moment, on est captivé, on est ailleurs, et ça fait du bien. Et toutes ces autres émissions, écoute, j'ai fait partie de cette équipe de chroniqueurs sur IDF1. Donc, en effet, j'ai pas été sur une grande chaîne, comme on dit. Évidemment que c'est important d'être aussi sur des grandes chaînes, mais j'ai pas encore. Voilà, on m'a rien proposé encore. Peut-être qu'on me proposera jamais. Mais sur IDF1, tu sais, quand on s'est amusé bien, on a fait du bon boulot. Et ce qui m'agaçait, c'est que toutes ces grandes chaînes, elles faisaient que de se moquer. Mais nous, on travaillait aussi. Moi, quand je venais avec mes chroniques, ça aurait été IDF1 ou TF1, j'aurais bossé de la même manière. Il y avait une quinzaine de heures de préparation avant. Mes sujets, je les ai bossés. Mes interviews, je les ai bossés. Et quand on venait tous, on faisait là pour faire une bonne émission. Donc, c'est drôle de se moquer quand on a deux moyens de faire sur une grande chaîne d'une émission, évidemment, qui va faire de l'audience. Mais enfin, ces petites chaînes, elles ont aussi le droit d'exister. Parce qu'il y a aussi des gens talentueux, des gens qui ont envie de s'exprimer. C'est tout simplement qu'on leur a pas encore donné cette chance d'aller ailleurs, tout simplement.
Et puis ces petites chaînes, comme tu les appelles, elles permettent aussi à de jeunes talents de pouvoir s'exprimer. Alors que sur les grandes chaînes, on voit toujours les mêmes.
Mais oui, mais bon.
C'est pas méchant, hein, mais on voit toujours les mêmes.
Je te dirais pas le contraire. Ouais. Regarde la preuve. J'ai galère toujours pour avoir des rendez-vous dans des grandes chaînes. Et encore, j'ai croisé les doigts parce qu'en mois d'août, c'était un mois d'août assez particulier où j'ai l'impression que les portes commencent à s'ouvrir tout doucement, que j'ai pu avoir quelques rendez-vous importants, quelques castings importants. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que je me suis bien vendue? Peut-être pas. Tout dépend de l'instant, du moment, de la personne que tu as face à toi. Et si on te juge par rapport, voilà, juste à ta présentation, et c'est vrai, il est difficile de parler de soi. Vous avez fait quoi dans votre vie? Enfin.
On cherche des jeunes, mais au moins minimum 15 ans d'expérience.
Enfin, il faut déjà leur donner leur chance de commencer quelque part.
Mmh.
Ou leur faire confiance ensuite.
Oui.
Moi, ce qui me manque aujourd'hui, que je pense que j'ai déjà la base. Je suis contente de ma base, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas honte, ou peut-être pas honte, c'est pas honte. J'ai trouvé ça prétentieux avant de dire « j'aimerais faire de la télé ». Aujourd'hui, je sais que je pourrais faire bien de la télé parce que je me suis déjà entraînée pendant ces quelques années, que j'ai eu la chance de vivre des expériences différentes. J'ai réalisé quelques reportages dans des milieux différents, du sport, de la mode. Cette expérience de 10 mois à IDF1 où j'étais chroniqueuse, parfois une fois par semaine et parfois 4 fois par semaine parce qu'ils avaient besoin de moi. Et j'ai toujours répondu « présente » parce que c'est formidable. Et c'est génial d'avoir cette possibilité. Et c'est dommage que, oui, je pense que je suis quelqu'un de dynamique et de motivé. Et j'ai l'impression qu'on s'en fout des gens qui sont motivés. Donc, je trouve ça dommage. Enfin. Donc, voilà.
En tout cas, beaucoup me font remarquer ton excellent français.
Ah ben, écoute, merci. Et je répondrai que la langue française, elle est tellement belle. J'aime tellement de pouvoir l'utiliser, de m'amuser avec. Je vous rassure que mon polonais, il est moins poétique que mon français.
J'étais très surpris. Nous allons arriver à ton choix musical. Serge Lama, Marie ma polonaise, et puis le clown de Vincent, c'était ma surprise à moi. J'étais très surpris lorsque tu m'as demandé d'inclure dans ton climat musical Edith Piaf. Pourquoi Edith Piaf?
Parce que quand tu
pourquoi
m'as dit...
pas, mais pourquoi Edith Piaf?
Parce que quand tu m'as dit, Agatha, prépare-moi ta bibliothèque musicale, j'avais envie de... Je me suis interrogée, qu'est-ce que représente pour moi la chanson française? Et naturellement, j'ai pensé tout de suite, Edith Piaf et Padam, c'était naturel. Donc, c'est pour moi très français. Je peux pas t'expliquer, mais quand je suis en Pologne et je l'écoute, je suis très émue. C'est différent que quand je suis ici. Mais c'est pareil quand... Je voulais vous faire partager une inspiration polonaise. J'ai tout de suite pensé à Chopin. Et je suis aussi très émue quand je l'entends. Et ça ne s'explique pas, c'est au fond de nous. Et... Enfin, on ressent quelque chose tout simplement.
Cet air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre entendre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 et toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des vêtus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul peine sur cet air qui bat comme un cœur.
Vous écoutez, vous regardez la web radio Étoile du Cœur avec Agatha jusqu'à 21h. Agatha, je regarde, je vérifie sur ma fiche, Agatha Siwakowska. C'est pas un nom facile, hein, à
c'est
retenir.
Trop, hein. Siwakowska.
Siwakowska.
Oui.
Je pense qu'avec un nom comme ça, vous avez des chances, mademoiselle, de faire de la télévision un jour.
Je n'en sais rien. On verra bien.
Oui.
On verra.
Agatha, c'est... Moi, je pense que le prénom, tu pourrais te faire un prénom plus que le nom. J'ai une petite idée comme ça. Hein.
C'est vrai que... C'est vrai que, oui, mon prénom m'identifie bien, je dirais.
Alors, j'ai des messages qui sont arrivés. Oh, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, mais c'est pas le but. C'est pas le but non plus qu'il y ait trop de questions. Quoique... Mais en tous les cas, merci d'être très très nombreux à écouter cette nouvelle web radio sur le net. C'est Youl qui écrit « Merci Agatha de cet amour porté à la langue française. Si tout le monde pensait ainsi, la francophonie aurait encore quelques beaux jours devant elle. »
Ben merci, ça me fait plaisir. Puis, c'est vrai, c'est fou. Elle est tellement belle cette langue. Je trouve ça tellement dommage quand je vois comment on l'écorche ici. Comment on la découpe. Moi, je fais tout pour l'appliquer et la savourer. Et je la savoure vraiment chaque jour.
Ça t'énerve les animateurs ou les présentateurs de radio ou de télévision qui écorchent les noms, qui utilisent des mots
Je trouve ça dommage.
Ouais. Hein.
Parce que c'est tellement beau, c'est tellement élégant.
Des contractions de plus en plus. Bonjour, qu'est-ce que vous faites de...
Mais je
nous sommes en train de perdre cette langue.
Je ne sais pas à quoi ça sert.
Et ce sont les médias qui nous aident à perdre la langue. Enfin, qui nous aide, façon de parler.
Oui, non, écoute, je suis contente de pouvoir la pratiquer comme je la pratique. Surtout quand j'entends qu'apparemment je la pratique bien. Donc je me dis, bon, au moins je ne me suis pas donné tout ce mal pour rien. Puis j'apprends tous les jours, j'ai lu beaucoup. Donc ça m'aide aussi, évidemment.
Tu me parlais tout à l'heure, tu nous parlais de cette pièce de théâtre. Tu peux rappeler le théâtre?
théâtre Rive Gauche, le journal d'Anne Gauche, Frank.
Qui est en quel arrondissement?
En Montparnasse.
Dans le 14e, donc.
Oui, il me semble. Je suis pas très forte au arrondissement de Paris. Montparnasse, c'est sûr.
Mais c'est pas très loin d'ici. Et je voulais te recommander un livre, comme tu as parlé de Richard Joffo tout à l'heure, qui a été aussi ton enseignant et qui t'a appris et qui t'a trouvé sur moi, qui t'a aidé quelque peu à trouver du boulot. Je voudrais te parler de son oncle, Joseph Joffo.
Oui.
J'ai jamais entendu parler de Joseph Joffo. Joseph Joffo, c'est un très vieux monsieur maintenant, que j'avais reçu il y a quelques années, et qui a écrit un livre extraordinaire, qui s'est vendu à des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions d'exemplaires. Ça s'appelle Un sac de billes. C'est l'histoire d'un petit enfant juif.
Mais Richard nous en a parlé. Maintenant que tu me parles, ça me revient. Il nous en a parlé.
Dès que tu as l'occasion, lis ce livre. C'est extraordinaire.
Mais écoute, avec plaisir, avec joie.
Tu lis beaucoup?
Oui, dès que je peux.
Qu'est-ce que tu lis? Quelles sont tes lectures, Agatha?
Alors, j'aime beaucoup Paulo Coelho. Je me retrouve beaucoup dans ses citations. Et j'adore ça. Je pense que ça m'encourage de retrouver des petites phrases comme ça qui sont très empreintes de nos quotidiens, mais pleines de bonnes valeurs, des pensées positives pour aller vers l'avant. Et ça, j'aime. Donc, Paulo Coelho. Beaucoup.
Tu as tout lu?
Non, mais je dirais je me garde de ces citations.
Tu as lu L'Alchimiste, évidemment.
Évidemment.
Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis... Tu as lu aussi?
Oui. Je me suis fait une belle bibliothèque. J'ai pas encore pu tout lire. Je l'ai envisagé cet été, mais j'ai plus travaillé qu'autre chose. Et puis c'est vrai que quand on travaille, il m'est difficile de lire en même temps. J'ai besoin vraiment de pouvoir me poser pour apprécier un livre. Sauf que s'il y a une nécessité derrière, s'il y a une chronique, etc. Mais j'aime beaucoup Paulo Coelho. Journal d'Anne Frank m'avait beaucoup bouleversé, évidemment. Et La pitié dangereuse de Stefan Zweig. Également, j'aime beaucoup.
Christian Bobin, c'est un nom qui te dit quelque chose?
Non. Hélas, pas encore.
Je te ferai découvrir Christian Bobin.
Évidemment, je connais pas tout, mais j'aimerais
tellement. Tu aimes ces hommes qui ont aussi une sensibilité féminine, je veux dire, qui assument leur part d'inféminité pour écrire ou pour parler ou pour se... Je parle pas des... Non. Est-ce que toi, tu as un côté mec aussi? Je sens ça, quelque chose que tu ne montres peut-être pas, mais que moi, je décèle que...
Alors, malheureusement, oui.
Comment malheureusement?
Parce que la vie ici nous oblige aussi un peu, nous les femmes, devenir des hommes par moment. Donc oui, je pense que je suis un homme parfait, si j'ose le dire. Mais je préfère tellement d'être une femme sensible que je suis au fond. Et ne pas avoir à faire ressortir cet homme qui est en moi, oui. C'est pas un choix. Je pense que c'est la vie ici qui m'a un peu forgée comme ça.
La question te dérange ou ça va?
Non, je t'en prie.
Parce que tu t'imagines un jour poser une question comme ça à un homme, est-ce que vous sentez aussi la femme qui est en vous?
Oui, mais je pense que
la plupart des artistes ont les deux visages.
Oui. Ouais, non, ça me semble assez logique. Enfin, non, ça ne me gêne pas plus que ça.
Tu es de quel signe?
Bélier.
Ceci explique peut-être et l'ascendant?
Alors, je ne sais pas. Écoute, je connais pas mon ascendant, hélas. Maman n'arrive pas à se rappeler l'heure à laquelle je suis née, donc je ne suis incapable de savoir quel ascendant je suis.
Et toi, l'astrologie, qu'en penses-tu? Les femmes regardent, est-ce que tu regardes ton horoscope le matin?
Alors, pas tous les matins, mais encore via tous ces réseaux sociaux, j'ai eu la chance de rencontrer une astrologue récemment. Et quand elle met ses prévisions, ben alors, finalement, je me reconnais assez. Quand elle parle de signes de feu et de moments, parce qu'en astrologie, c'est surtout les dates, les bons moments, etc. Bah finalement, en ce moment, c'est exactement ce qu'elle évoque. Je pense que j'y suis dans la bonne phase, au niveau professionnel en tout cas.
Est-ce que le paranormal, est-ce que c'est un nom qui te dit quelque chose? Est-ce que tu crois à la vie après la vie? Est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a des extraterrestres?
Alors écoute...
Fais-nous partager ce que tu ne diras plus jamais dans aucune chaîne de radio ou de télévision. Fais-nous partager tes côtés bien à toi.
Alors écoute, moi j'aime tellement parler de la vie. Pourquoi parler d'au-delà? En fait, je m'en occupe pas. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage un peu, je dirais torturés, qui me parlent beaucoup de la mort. J'ai pas envie. Moi, je parle de la vie avant tout. Parce
t'en
que
t'en
je suis
reviendra,
là.
T'en reviendra.
Non, mais évidemment qu'il viendra. Mais j'ai pas envie de m'en occuper puisque je ne peux rien changer.
Mais parler de la vie après la vie, ce n'est pas parler de la mort, c'est encore parler de la vie.
Oui, mais je ne sais pas. Je ne m'en occupe absolument pas. J'aime l'instant présent avant tout.
Qui est déjà passé.
Mais qui est encore présent parce qu'il est fort et qu'il est intense et je les savoure. Et... Alors écoute, tout ça, je ne sais pas, ça ne m'attire pas plus que ça finalement.
Les extraterrestres
Je m'en fiche.
Je t'en fiche. Mais tu as sûrement raison.
Je ne sais pas si j'ai raison, peut-être pas. Mais...
J'ai dit sûrement. Hein. J'ai pas dit que tu avais raison, tu as sûrement raison.
Quand tu parles de ça, je dirais que je crois que mes proches disparus sont autour de moi et qui me protègent, et qui sont mes anges. Ça, je crois. Maintenant, une autre forme ne m'intéresse pas. C'est plus...
Dans ce que tu disais tout à l'heure, en tout début d'émission, il n'y a que des rencontres.
Oui.
Il n'y a pas de hasard.
Oui.
Hein?
Paul Éluard.
Hein? Oh, beaucoup l'ont dit.
Oui, mais j'aime beaucoup cette phrase.
Mais lorsque tu parles de tes proches qui sont partis dans une autre dimension, tu les penses aussi proches de toi? Tu penses que tu es protégé?
Oui, je suis persuadée.
Mais par qui? Qui?
Par mes grands-parents, par exemple.
Mm-hmm.
J'en suis persuadée, je ne peux pas te l'expliquer, mais je le sens autour de moi. Et j'aime penser à ça, j'aime cette sensation de me dire qu'ils m'accompagnent. Premièrement, parce que je vis dans un autre pays, donc déjà d'être physiquement proche de mes proches n'a jamais été facile. Mais en plus, quand tu sais qu'ils s'en vont, malheureusement, j'aime bien penser que finalement, ils sont maintenant ici par ici. Bon, ça peut paraître banal ou con ou on s'en fout, mais...
Elle l'a dit.
Elle l'a dit.
Merci, Agatha.
Mais moi, je le pense vraiment. Je pense qu'ils sont là, ils me regardent. Ouais. Et je pense que mon grand-père est fier de moi. Et voilà.
Eh bien, tu vois qu'après la mort, il y a encore la vie. C'est aussi simple que ça. Je t'apprendrai si tu veux.
En fait, je vais pleurer maintenant.
Mais non, tu sais, nous sommes passés de... La mort de rien, hein, simplement on est passé de l'autre côté du miroir. Mais bon, putain, mais elle est vachement émue là.
Non, ça c'est... Je parlais de mes grands-parents.
Ouais, mais c'est plein d'amour, tu sais.
Non, mais je sais, mais tu vois bien. Bien sûr.
Tu sais, mon père, il est mort en 1987, il est toujours présent. Donc il est mort peut-être physiquement, oui, il est plus là, mais sa voix, je l'ai toujours dans les oreilles. Il me parle, je lui ai même dit il y a quelques jours, tu sais, Agatha, il m'a dit. C'est sa voix qui m'a dit, tu vas voir, ce sera une super belle rencontre. Alors c'est peut-être mon inconscient ou mon conscient, mais nous avons peut-être aussi besoin que ceux qui nous ont quittés nous protègent et veillent sur nous.
Je pense. On va changer de sujet maintenant.
Je suis vraiment désolé, je pensais pas que...
Non, mais écoute, c'est un sujet important.
Mais merci, parce que tu sais, toutes les larmes sont saintes. C'est Christian Bobin qui a écrit ça. Toutes les larmes sont saintes.
C'est joli.
Je te passerai le texte de La Petite Robe de Fête. Tu vas découvrir un nouvel auteur.
Ben avec plaisir.
Parce que c'est important aussi que ceux qui viennent d'autres pays connaissent un peu la littérature des auteurs qui sont pas forcément très médiatisés. Toi, tu reçois beaucoup de livres en service de presse, ouais.
Oui. Il y a un autre livre que j'aimais beaucoup, parce que quand on parle, ce que j'aime, c'est quand les autobiographies, les gens qui racontent leur vie, j'aime beaucoup. J'aime des choses réelles, des histoires vraies. J'aime pas qu'on raconte des babards, ça m'intéresse pas. Et le livre qui m'avait beaucoup touché et qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle « Je me suis régalé, les confidences de Bruno Puzulu et de Philippe Noiret ». Et c'est un grand moment aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin. Des grands hommes, des grandes amies qui partagent leurs expériences. Mais qui abordent tous les sujets, qui parlent de tout finalement, de la mort aussi par exemple, mais de leur vie des acteurs. J'aime beaucoup parce que ça nous apprend quelque chose et ça nous sert aussi. Moi ça m'a servi. En quelque sorte c'est utile parce qu'ils donnent des conseils aussi. Donc je ne suis pas comédienne. Mais il y a quand même des petites subtilités entre comédien, animateur, chroniqueur. Ça se rejoigne un petit peu. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu également.
Qui n'est pas toujours forcément compris de ceux qui écoutent ou qui regardent.
Bien sûr.
Mais je pense que pour se recevoir les uns et les autres, même si on est dans le même milieu, il faut un minimum. Mais c'est l'amour. L'amour de l'autre.
Mais oui.
Et puis je peux peut-être te servir, tu pourras peut-être me servir, mais utilisons-nous pour que chacun puisse... C'est sûr, c'est ça le partage. Le partage, c'est pas donner et puis...
C'est échange. Mmh. Oui.
Partager.
Oui, moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent « Oui, dans la vie, il faut donner, mais il faut rien attendre en retour. »
J'allais dire mon cul, pardon.
Non, mais c'est ça. Mais enfin, comment tu veux donner? Mais on attend tous. On en a besoin. On peut pas que donner parce qu'on est épuisé, enfin. Et je vois tous ces gens. J'en ai aussi des gens comme ça autour de moi. On dit qu'on est un peu des gens lumineux, qui est une espèce de lumière autour de nous, donc ça attire à toute une espèce de personne. Mais enfin, on peut pas que donner. Tout le monde ne peut pas nous prendre cette énergie. On en a besoin aussi qu'on nous donne, qu'on nous épaule aussi un petit peu, parce que par moments on craque. Pas souvent, mais quand ça arrive, c'est enfin ça arrive à tout le monde.
Nous avons aussi nos faiblesses.
On n'a pas que de nos beaux jours, on a aussi nos...
C'est sûr qu'on ne montre pas, on fait pas craquer le vernis pour montrer sous la voix d'un homme ou d'une femme adulée, détestée, médiatisée, pas médiatisée, nous sommes en retour des êtres humains avec nos peines, nos difficultés, nos joies, nos ennuis, nos galères, nos désirs. Mais nous sommes terriblement humains, simplement que nous avons la chance de pouvoir nous exprimer en ayant un micro.
Mais je pense aussi que ce métier, il est un petit peu dangereux dans le sens où les médias font une image d'un tel ou un tel artiste et on oublie parfois les côtés humains. Et par rapport aux interviews que j'ai pu réaliser de certains, tu as nommé Grand Corps Malade, il y avait Nikos, mais il y avait aussi l'artiste Sorel, Corson, et d'autres. Ce que j'ai aimé, c'était cette rencontre humaine. Et évidemment, ils sont tous sensibles, ils ont tous une richesse en eux, ils ont des choses à dire. Et je trouve ça dommage que parfois on oublie ces côtés juste humains.
Parce que l'audimat.
Oui, mais enfin, on a besoin de...
Parce que les gens matent. Parce que la télévision a perdu son âme.
Mais ils vont mater aussi si quelqu'un nous parle d'une confidence, s'il nous fait part des moments émouvants de sa vie. Enfin, les gens vont mater parce qu'on va être dans l'émotion. Mais sans que ça soit ambigu, sans que... Enfin, juste qu'on se fasse du bien aussi. Juste qu'on se dise des choses.
C'était quand ta dernière émotion, ta plus récente émotion? Non, elle date d'il y a quelques instants dans le studio. C'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé. Tu m'as fait un très très beau cadeau.
Écoute, je ne sais pas, mais c'était naturel.
Yul écrit exactement les choses contre lesquelles on ne peut rien. C'est un petit peu décousu par rapport à notre intervention, à notre dialogue, n'ont aucune importance. En plus, Agatha est une sage. A-t-elle au moins un défaut? Alors, je vais prolonger l'interrogation de Yul en te demandant, quel est ton principal défaut?
Trop perfectionniste.
Tu appelles ça un défaut?
Oui,
pas.
Parce que je m'épuise et j'en demande beaucoup à moi-même. Je pense que je suis exigeante avec les autres aussi, mais surtout avec soi. Et parfois, j'ai ma maman qui me dit « lâche un peu » et je peux pas. Je me demande beaucoup parce que je pense que c'est en donnant beaucoup que ça marche aussi. Voilà.
Alors très récemment, ça date du mois de juin 2012, c'est la boutique M6.
Oui.
Je t'ai vu deux fois.
C'est vrai?
Oui.
Ah ben merci.
Combien tu as eu de passages?
Là, je viens d'avoir un troisième.
Un troisième,
passage.
Donc j'ai vu les deux... J'ai vu les deux, oui.
Donc non, écoute...
Et j'étais vachement intimidé, parce que je me suis dit, Agatha, ce plateau de M6, la boutique, et puis dans quelques temps, elle sera dans le studio de Radio Étoile du Cœur. Mais oui, mais tu sais, non, ce que tu ne sais pas, c'est que il y a des rencontres qui sont belles, d'autres qui le sont un peu moins, mais il y a des rencontres qu'on attend avec un peu plus d'impatience. Ça t'arrivera, tu verras, toi, plus tard.
Mais ça m'arrive déjà.
Ça t'arrive déjà.
Mais moi, j'étais impatiente, moi, j'étais contente de savoir que je serais là face à toi... Évidemment, tu sais, c'est quand même mon première radio où on me pose des questions. Donc je te remercie. C'est une belle marque de confiance et merci d'être intéressé à mon parcours. Ça me touche aussi. J'ai des témoignages comme ça de gens qui m'accompagnent depuis quelques temps et je trouve ça, enfin, c'est encourageant. Voilà. Je me dis que je fais bien de m'accrocher, d'aller d'avant et d'avoir envie d'en faire plus dans ce métier. Et apparemment, je transmets quelque chose. En tout cas, je leur fais du bien à ces gens. Donc, enfin, tant mieux, parce que ça me fait du bien aussi. Donc, c'est une belle échange.
Tu as quelques ennemis aussi, je suppose.
Mais évidemment. Mais je m'en occupe pas. Je m'occupe des gens qui m'aiment avant tout. Et tant pis pour les autres, enfin.
Je vais retenir ce que tu viens de dire. C'est vrai, nous donnons beaucoup trop d'importance aux personnes qui ne nous aiment pas. Mais elles ne nous aiment pas, elles ne nous aiment pas, puis point, on tourne.
Je pense qu'ils ne nous aiment pas parce que peut-être ils sont peut-être admiratifs de ce qu'on fait, mais qu'ils n'arrivent pas à l'avouer tout simplement, enfin. Mais moi, je ne suis pas dans cette optique. Moi, je suis contente quand les gens y réussissent parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que ce n'est pas évident déjà. Donc, pour ceux qui s'accrochent et qu'ils ont le courage d'aller jusqu'au bout malgré tout ça, ben, qu'ils ont raison. Et moi, je suis contente quand les gens de mon entourage réussissent, qu'ils soient les anciens académiciens. Je ne suis pas jalouse, je suis contente. Ça veut dire qu'on a tous reçu un certain savoir, mais après, il faut quand même tout développer en solo. Et c'est ça ce qui n'est pas évident. Mais s'ils réussissent et si moi j'ai réussi encore un petit peu, je ne suis pas là où je suis. Évidemment que je suis contente de M6 Boutique, mais je parle de la mode, je dois mettre en avant des vêtements. C'est bien parce que je suis une femme, j'aime la mode aussi. J'avais fait des chroniques spécialisées dans la mode également. Mais j'ai envie aussi de faire autre chose, évidemment.
Quels sont les domaines qui t'intéressent? Les vêtements, maintenant la mode?
Donc la mode, elle s'est imposée à un moment. Et là, d'ailleurs, prochainement, normalement, je vais avoir une émission web consacrée à la mode aussi. J'ai pas encore signé mon contrat, donc j'attends, mais on m'avait confirmé que c'était bon. Donc ce sera vraiment la mode, encore en plus de mes activités à M6 Boutique. Donc c'est déjà parfait. Je vais être très occupée, et tant mieux. Mais ce que j'aime, c'est la culture. C'est la vie culturelle à Paris et j'adore. Et j'aime parler des événements auxquels j'assiste. J'aime parler des associations qui me tiennent à cœur. J'aimerais pouvoir en faire plus. J'aime parler, par exemple, sur IDF, hein, tu vois, j'ai parlé de pièces de théâtre. Comme je le fais pas, là, par exemple, avec le journal d'Anne Frank. Mais je faisais aussi mes coups de cœur musicaux. Et c'était important aussi pour moi parce que j'ai eu la chance de rencontrer des artistes. Et ce qui m'agace, c'est qu'ils ont un talent fou et n'en parlent pas assez. Et je pense particulièrement à Sorel et à Corson.
J'ai pensé aussi à Sorel, oui.
Et tu as, je pense, je ne sais pas si tu as pu voir nos entretiens avec les deux, et je les trouve d'un talent fou. Et ça m'agace qu'ils ne peuvent pas y aller plus loin parce qu'ils le méritent tous les deux, enfin. Et c'est dommage. Donc j'aime aussi les coups de cœur musicaux.
C'est aussi le rôle des médias, qu'elles soient radio, FM ou qu'elles soient télévision. C'est aussi leur rôle de faire découvrir des nouveaux talents.
Oui, oui.
Enfin, des nouveaux talents. On a quand même quelques émissions qui permettent d'eux, mais ce sont toujours les mêmes qui passent toujours.
Et voilà, c'est ça qui est dommage. Moi, je trouve que c'est comme pour des jeunes animateurs, jeunes talents comme moi, finalement. On a du mal à nous faire confiance et de nous projeter ailleurs. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'étais ravie de pouvoir me retrouver face à Sorel et face à Corson. Ils ont des univers différents, mais quelle richesse musicale, quelle présence, quelle sensibilité. Bien sûr, là, je parle de deux, donc il faut quand même faire la part des choses. C'est des univers différents, des personnalités différentes, mais pour les... C'est dommage qu'on ne les entende pas encore assez. Corson, il commence, il est déjà entré en radio, il est en train d'enregistrer son album... Je ne sais pas si tu peux.
J'ai écouté.
J'ai entendu cette voix.
J'aime bien.
Qui chante quand avec deux voix?
Quand je dis j'aime bien. Écoute.
Show me the season.
Tu veux bien nous parler de Corson?
Oui. Tu veux que je parle de Corson?
Oui.
Oui. Pardon.
Et puis j'ai un message de Jonathan qui nous écoute depuis la région de Lyon, qui nous dit, puisque tu as Agatha dans ton studio et qu'elle parle de la mode, j'en profite, je lis textuellement son message,
oui.
J'en profite pour placer un appel au boycott des fourrures dans le milieu
très
de la
bien,
mode.
Très bien, bravo. Bravo, très
et
bon
ben voilà,
message.
T'as vu, voilà Jonathan, il suffisait de le dire.
J'ai rejoint Brigitte Bardot, je suis amoureuse des animaux, et c'est vrai que... C'est vrai.
Alors,
qu'on puisse en passer.
Corson, cet univers qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On aime ou on n'aime pas une fois de plus?
Oui, j'ai du mal à croire qu'on peut ne pas aimer parce qu'il y a quand même cette double capacité vocale.
Mm-hmm.
Je ne sais pas toi, j'ai jamais entendu auparavant quelqu'un qui chante dans une chanson avec deux voix différentes, avec une voix lyrique.
Excepté des imitateurs, c'est tout. Mais pas les chanteurs, non, les chanteurs,
mais
non.
Mais en plus, c'est drôle, mais on s'attend pas.
Klaus Naomi peut-être, mais bon, je te ferai connaître aussi. Enfin bon.
Avec plaisir. En tout cas, Louis, c'était une très belle rencontre. Et c'était tout au début pour lui aussi. Il savait pas si ça allait marcher, si ça allait plaire, mais j'ai beaucoup aimé cet entretien qu'on a réalisé il y a 6-7 mois. Et depuis, il a fait son chemin et je suis presque fière. Je suis fière qu'il arrive à s'envoler tout doucement, que les gens lui font confiance, qu'on lui ouvre la porte, qu'il a pu signer dans une grande maison des disques. Et c'est vrai qu'il mérite. C'est un très beau univers qu'il nous offre. Il y avait aussi une histoire familiale de sa maman qui a disparu. Moi, ça me touche tout ça. Ces gens qui arrivent aller vers l'avant malgré tous ces drames familiaux et autres, ce qui n'est pas évident.
Mmh.
Et ça nous porte. Et je pense qu'on le fait aussi pour ses proches disparus. Je pense qu'il le fait aussi pour sa maman, comme il me l'a confié lors de notre entretien. En
toi, tout cas, tu le moi, fais pour toi ou la carrière que tu es en train de te fabriquer tout doucement avec beaucoup de sueur aussi, beaucoup de travail, beaucoup de temps passé. Tu le fais pour toi, pour ta maman, pour ton grand-père, tu en as parlé tout à l'heure, mais il me semble
pour
que
toutes ces raisons,
ta mère a beaucoup d'importance dans ta
ma
vie,
maman,
Agatha.
Ah oui, elle ne m'en parle pas parce que je vais pleurer encore, ça va terminer en larmes. Oui, évidemment, oui. C'est une femme très courageuse aussi, je trouve, de venir comme ça quand on a une vingtaine d'années à Paris et de travailler pour entretenir sa famille. Pff, quel courage. Quel courage, ma maman.
Jonathan te remercie.
Ben, écoute, avec plaisir.
C'est pour la fourrure.
Oui.
Maintenant, on a tout ce qu'il faut. On peut faire du synthétique. Faudrait peut-être arrêter les fourrures. Tu es sensibilisé aussi à la cause animale, à la souffrance animale?
Alors, écoute, moi, je suis la Brigitte Bardot polonaise. Je suis amoureuse des animaux profondément. Et j'ai un peu honte, mais je viens d'un pays où, pendant des longues années, on portait de la fourrure, mais parce qu'il fait très froid. Donc j'en ai porté quand j'étais petite. Et depuis quelques temps, je me suis rendu compte que je ne supporte plus vraiment. Pourtant, je l'assume. Je l'avais fait, donc je ne vais pas le nier. J'ai trouvé ça beau, et surtout dans notre pays, utile, pratique et chaud, parce que chez nous, il fait moins 20, 20, 30, moins 40. Enfin, on doit se couvrir. Mais maintenant, quand on vit ici à Paris, je trouve que c'est inutile. On n'a pas besoin. On a tellement d'autres belles produits à portée de main. Puis c'est tellement beau, les animaux. Moi, j'ai un chien que j'aime. Et j'aime tous les animaux.
Tout blanc.
Oui, exactement. Oui, tu l'as vu.
Oui, je l'ai vu, oui. Tu es parti au bord de la mer avec lui il y a quelques
jours. Exactement. Moi, je l'emmène tant que je
peux. Tu nous racontes, pour nous qui avons la chance d'être tes amis sur Facebook... Tu te racontes, mais toujours avec beaucoup de pudeur, tu ne dis pas tout, mais j'aime bien t'imaginer sur la plage avec le chien.
Balzac.
Balzac, ouais.
Écoute, je partage un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'ai suis suivie par des gens d'une manière assez fidèle. Et donc je trouve que c'est la moindre chose, c'est de partager des choses avec eux. Évidemment, on ne partage pas tout, et il faut faire part des choses aussi. Je pense qu'il ne faut pas s'exhiber sur Facebook. Je pense pas qu'il est nécessaire de mettre certaines choses en avant. Hein. Je me mets pas trop en maillot de bain. Je pense pas que c'est nécessaire.
Mmh.
Je préfère mettre des photos avec mon chien.
Et puis j'avais mis quelques photos de toi, un peu, quoi. Enfin bon.
Un peu plus.
Là, il y a eu des débordements en disant, mais comment tu as fait, combien tu payes pour quelle... Ah non, mais ça a été loin.
C'est vrai?
Ah oui, mais il y a vraiment des cons, hein.
Oui, mais tu vois, moi, en plus, tu as mis des photos de mode, donc bon, je suis quand même dans la mode.
Mais bien
donc,
sûr.
J'ai aussi le plaisir de pouvoir poser pour certains photographes qui me font des très jolies photos. où il n'y a rien de déshabillé, etc. Mmh. Mais là, il ne se fait pas grand-chose.
Excuse-moi, tiens, la mémoire me revient là maintenant, parce que je n'ai pas toutes les questions, je n'ai pas les fiches, etc. Et puis deux heures en direct, ce n'est pas courant. J'espère que tu auras la possibilité de faire ça. Mais j'ai lu quelque part sur une fiche signalétique de toi, 1m71, et ne pose pas nu. J'ai lu ça, oui, je te montrerai.
Ah oui, c'est vrai.
Tu ne poses pas nu.
C'était un...
Tu as eu des propositions?
Non, mais il y a des sites comme ça. C'est drôle que tu me parles de ça. Parce que je crois que c'est un des premiers sites de casting où je me suis inscrite. Ils posent ce genre de questions. Est-ce que vous acceptez de poser nu?
Donc, enfin, c'est vachement indiscret, Internet. Hein. Dès l'instant où on est un peu public, c'est peut-être ce que recherchent aussi tous ces amis avec qui nous partageons sur Facebook ou sur Twitter.
Écoute, je ne sais pas. Je pense que c'est le choix de chaque jeune femme, parce que bon, je suis une femme avant tout, de montrer ce qu'elle a envie de montrer. Donc, je veux bien démontrer ça si on n'a rien d'autre à montrer. Mais pourquoi montrer que ça si, enfin, ça reste d'une sphère très personnelle. Je ne pense pas d'avoir la nécessité et ça ne me servira strictement à rien de me mettre... en petite tenue sur les photos, si je sais que peut-être que mon site marchera mieux. Mm-hmm. Peut-être qu'on va plus regarder et aimer les rendez-vous des Gata. Mais
sûrement,
mais ce sera pas pour des bonnes raisons, Jean-Claude. Mm-hmm. Moi, je suis, écoute, ma page, il y a que 170 personnes qui l'aiment. Mais moi, je trouve ça beaucoup déjà parce que les gens, ils l'aiment pour mon contenu. Donc, je suis contente. Si j'en aurais eu 5000 qui l'aiment pour mes seins nus, pardonne-moi, mais je m'en fiche, hein, j'ai rien à... C'est vrai.
Ce que je peux dire d'Agatha, que je connais depuis un an, mais c'est la première fois que je l'ai en face de moi, c'est une belle femme, oui, mais il y a aussi, tu sais, la phrase facile, la beauté intérieure. Mais non, mesdames, messieurs, la beauté intérieure, tout le monde ne l'a pas.
C'est beau.
On peut avoir la beauté extérieure, la beauté physique, mais la beauté intérieure, moi je la cherche, je sais pas toi, mais moi je la cherche encore. Et il faut tendre. Tu parlais de Paolo Coelho. Quand tu découvriras Christian Bobin, la beauté extérieure et la beauté intérieure, les deux jointes, ça fait des personnages extraordinaires. Ça fait des hommes et des femmes extraordinaires. Parce que c'est bien Facebook. Moi, je communique beaucoup. Je rigole. Je parle beaucoup de politique aussi, parce que je trouve que c'est un des sujets, importants. Toi, tu n'en parles jamais de politique.
Non, c'est vrai.
Pourquoi?
C'est vrai. Peut-être parce que ça, c'est mon côté. Parce que je me sens autant française qu'autant polonaise. Donc, c'est vrai que je dirais pas que je m'en occupe pas. Je suis évidemment active à tout ce qui se passe parce que je vis quand même ici. Donc, ça me concerne. Mais je suis un petit peu en dehors de tout ça. Je suis en dehors. Je suis plus dans tout ce qui est artistique. Ça m'apporte plus.
Mais j'ai remarqué que tu suivais attentivement ma page Facebook aussi.
Oui.
Des conneries style, si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite, tandis qu'enterré, tu auras toujours une chance d'avoir un petit verre dans le nez. De temps en temps, sourire aussi, c'est important.
Mais évidemment. Mmh. Mais il faut rire. Mmh. Il faut vivre avant tout.
Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui t'énerve? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas passer un bon moment? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu es heureuse d'avoir vécu ta journée?
Écoute,
déjà le matin quand tu te réveilles, Agatha, comment tu vis? Quels sont tes premiers mots, tes premières pensées?
Le matin, c'est mes pensées, c'est pour mon petit chien, pour mon gros doudou qui a besoin de sortir, donc c'est plus la promenade matinale. Mon petit café, ça me fait du bien, déjà ça me fait sourire. De voir ma maman de bonne humeur, ça me fait du bien, parce que je vis avec ma maman aujourd'hui. Et maintenant, l'autre question que tu m'as posée, ce qui m'agace et ce qui me fait mal, c'est déception humaine, avant tout. Je suis très sensible à ça, à des rencontres humaines et des déceptions humaines, je trouve ça terrible. Ça me met KO. Et après, ça répare et je me dis, écoute, c'est pas grave, la vie continue. Il y a des gens tellement... Il y a tellement de gens que finalement on peut ne pas s'entourer de ceux qui n'ont pas d'intérêt pour nous ou qui écrasent les autres ou qui ne les respectent pas. Donc il faut arriver à ce que ça ne nous touche moins peut-être finalement, mais c'est pas toujours évident. Donc on me dit c'est le milieu, peut-être. C'est peut-être la vie, je ne sais pas. Je pense pas que c'est que le milieu. J'ai du mal à croire que c'est que ça. Il y a de bonnes personnes dans ce milieu aussi, j'en ai rencontré. Des gens qui sont formidables, donc je pense pas qu'il faut généraliser. Il y a des bonnes personnes, des mauvaises partout.
Dans la peur de te perdre et de ne plus te voir, par ce monde insensé qui grouille dans ma tête, par ces nuits sans sommeil où la folie me guette, quand le doute m'effleure et dans mon cœur de noir. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par le temps que je prends pour ne penser qu'à toi, par mes rêves de jour où tu règnes en idole, par ton corps désiré de mon corps qui s'affole, et l'angoisse à l'idée que tu te joues de moi. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par le froid qui m'étreint lorsque je t'aperçois, par mon souffle coupé et mon sang qui se glace, par la désolation qui réunit mon espace et le mal que souvent tu me fais malgré toi, par la contradiction de ma tête et mon cœur, par mes 20 ans perdus quand toi je réalise, par tes regards lointains qui parfois me suffisent et me font espérer en quelques jours meilleurs. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par l'idée que la fin pourrait être un début, par mes joies éventrées, par ton indifférence, par tous les mots d'amour qui restent en souffrance, puisque de te les dire est pour moi défendu. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis mon amour.
Vous écoutez et regardez Radio Étoile du Cœur. Web radio tout à fait complètement débutante. Je parle de la web radio, hein, parle des animateurs. Déjà quelques années de route derrière eux. Même Agatha qui est mon invitée jusqu'à 21h. Alors quelques questions sont arrivées. Mais Aznavour, c'est une histoire vécue?
Non, mais je me dis que si quelqu'un me parle d'amour comme il sait parler lui, mon Dieu, je dirais oui. Pour moi, il n'y a personne qui parle d'amour comme lui. Ses textes sont touchants, renversants. J'aime.
Il n'est pas spécialement gay, quoique, dans ses chansons. Parce que je vais te dire, je peux le dire, parce que là, c'est ma radio, je suis plus tributaire de tel ou de rédacteur, de programme, de trucs, de machin. Ce que tu ne sais pas, c'est que mes deux premières interviews, ça a été Arletty, c'est pour ça que j'ai passé Atmosphère tout à l'heure. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Et puis ma deuxième interview, ça a été Charles Aznavour. C'était à Toulouse, à la Halle aux Grains.
Quelle chance.
10 minutes, il m'avait dit. Nous sommes restés 1h30.
Voilà.
Il a failli commencer son récital en... À la Le Grand, c'était à Toulouse en 1985. Il a failli commencer en retard. Ça a été Léo... comment s'appelait-il déjà? Levon Sayan, son impresario, qui est toujours son impresario, qui est venu taper à la porte de la loge en me disant « Charles, dans 5 minutes, c'est à vous !»
C'est qu'il a passé un bon moment à tes côtés. Hein, que la magie a opéré, qu'il avait envie de partager un moment.
Sylvain te pose la question, quels sont vos projets dans l'année à venir? C'est vrai, parce qu'on parle du passé, mais on ne parle pas du futur, des projets. Est-ce que tu as des projets? Parce qu'on n'a pas tout, on n'a pas tout vu encore. Tu as commencé de sévir sur un, comment ça s'appelle, tout info, quelque chose comme ça.
Mais je n'y suis plus. C'était une collaboration courte, mais intense, intéressante, parce que toutes les expériences sont intéressantes et sont à prendre, comme on dit. J'avais envie de me diriger vers l'écriture aussi, parce que présenter une chronique qu'on présente à la télé et de l'écrire ensuite, d'écrire un article, c'est un autre exercice que depuis quelques temps qui m'est tenté assez. Donc j'ai pu m'exercer pendant plusieurs semaines, j'ai écrit 7 articles qui ont beaucoup plu, et ben, finalement cette collaboration ne se fera pas sur la longueur, mais c'est une très bonne expérience et je suis contente parce que j'écrivais quand j'étais petite fille. Quand j'étais adolescente, j'écrivais en cachette des poèmes, des histoires. Et là, ça m'a un peu replongé dans ça. Et ça m'a fait du bien. Et j'aime l'exercice d'écriture et j'aimerais pouvoir écrire pour un autre, soit site web, un journal, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis pas fermée sur ça. J'aimerais.
Je voulais partager avec vous quelques expériences durant ce voyage. Ainsi, si un jour vous décidiez de prendre la route vers la Pologne ou la Croatie pour ensuite repartir vers Paris, peut-être que ces quelques lignes vous seront utiles.
Ah, ça c'est mon carnet
ton
de voyage.
Ton carnet de voyage. Et donc je confirme.
Ouais.
Je confirme, tu vois, il est là, j'ai tout,
oui,
j'ai tout copié,
je
hein, j'ai tout pompé. Oui. Tu es très...
Je suis très surpris que tu l'as trouvé.
Parce que j'ai trouvé que tu écrivais bien, que tu me donnais, moi... J'ai eu envie de partir, j'ai suivi, c'est combien, 15 jours de voyage?
Je suis partie, oui, plus de 15 jours. Ouais.
Plus de 15 jours. Dans mon imaginaire, c'est 15 jours. Je me souviens de paysages extraordinaires, je me souviens de Venise, où tu es en photo à côté d'un gondolier.
C'est vrai, c'est exactement ça.
Tu me regardes.
Et puis, tu sais, c'est fou parce que cet été...
Tu sais, je vais te dire, excuse-moi, parce qu'avec toi, je peux me permettre, ce que je ne ferai peut-être pas avec d'autres, mais lorsqu'on a un invité, et c'est ce que j'ai décelé en toi... Quand on s'intéresse à lui, on essaie de tout savoir et de surtout ne rien lui dire pour lui démontrer après, pendant cette émission, parce que là c'est exceptionnel 2 heures, pour lui dire voilà je t'aime et je te le dis, je t'aime, parce que c'est pas quand on est mort qu'on doit se le dire, quand on est vivant.
On est bien d'accord.
Oui, on est bien d'accord. Et essayer de, puisque avec Internet, nous n'avons plus de vie privée possible, quoique on peut se ménager la vie privée, et de se dire j'ai passé quelques heures à préparer cette émission. Pour te dire je t'aime et ne pas oublier ce que j'ai pu lire. Et ce que j'ai lu, tu m'as donné envie de partir. Tu m'as fait voyager, moi qui suis resté à Paris au mois d'août. Et ça m'a fait du bien de lire tes pérégrinations à Venise, en Pologne, en Croatie.
Bah,
et tu écris bien. C'est un vrai carnet de route.
Bah, je te remercie.
Un vrai carnet de voyage.
C'est mon premier exercice, mais ça m'a fait du bien aussi. J'espérais que ça fera bien aux autres personnes qui pourront le découvrir. Et ça m'a fait du bien parce que j'avais prévu de lire pendant cet été. J'avais pris une grande bibliothèque avec moi. Et malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère cet été et j'arrivais plus à lire. Tout s'était arrêté. Évidemment, nous étions dans une tristesse profonde. Et ce carnet, c'était mon seul moment évasion. Qui me faisait du bien à moi aussi, où j'arrivais à me concentrer sur autre chose et raconter toutes les belles choses que j'avais autour de moi. Je voulais juste le faire partager, donc je suis contente d'avoir réussi à transmettre ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vu.
C'est important aussi de pouvoir écrire. Tu écris bien. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts pour toi. D'autres te le diront.
Merci Jean-Claude.
Oui, merci. Heureusement que tu me dis merci.
Mais oui.
C'est.
Tu es un professionnel, moi je.
Non.
Mais si, aussi.
J'aime les gens que je rencontre. Quand tu disais tout à l'heure, c'est Jacques Brel qui disait, il n'a pas été le premier à dire ça, mais il n'y a pas de hasard, il n'est que de rencontres inévitables, avait rajouté-t-il. Inévitable. Par exemple, si je veux dévoiler un peu. D'Agatha. J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables. J'ai essayé de remplacer des personnes irremplaçables et oublier des personnes inoubliables. J'ai agi par impulsion. J'ai été déçu par des gens que j'en croyais incapables. mais j'ai déçu des gens aussi. J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger. J'ai ri quand il ne fallait pas. Je me suis fait des amis éternels. J'ai aimé et l'ai été en retour, mais j'ai été aussi repoussé. J'ai été aimé et je n'ai pas su aimer. J'ai crié et sauté de tant de joie. J'ai vécu d'amour et fait des promesses éternelles. Mais je me suis brisé le cœur tant de fois. J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos. J'ai téléphoné juste pour entendre une voix. Je suis déjà tombé amoureux d'un sourire. J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie et j'ai eu peur de perdre quelqu'un de très spécial que j'ai fini par perdre. Mais j'ai survécu et je vis encore. Et la vie, je ne m'en passe pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas t'en passer. Vis. Ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion. Embrasse la vie et vivre avec passion. Perdre avec classe et vaincre en osant. Parce que le monde appartient à celui qui ose. Et la vie, c'est beaucoup trop pour être insignifiante. La vie.
Rien à ajouter. Hein. C'est ça la vie. C'est ça que j'aime. Je trouve ça tellement complet, tellement bouleversant, tellement vrai. Je pense que chacun forcément va se reconnaître dans ce texte. Charlie Chaplin. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je te remercie.
En plus, c'est bien, madame. C'est bien, madame. Et je te dis, madame. Je sais bien parce que tu aurais pu dire, c'est moi qui l'ai écrit. Non, mais tu sais. La rencontre, les rencontres. C'est bien de dire, non, ce n'est pas moi, je ne suis pas l'auteur. Tellement de gens s'approprient les textes d'autres.
Je peux pas, j'ai respect.
Bravo, Agatha.
Mais non, bravo à ces artistes, enfin. On a la chance de pouvoir les utiliser, de les lire, de les savourer, ces textes. Pourquoi mentir, enfin, soyons juste sincères. C'est tellement plus simple.
Juste sincère. Juste sincère. Alors, il y a un autre artiste que tu as reçu. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver sa musique. Oui. Parce qu'il faut aller sur iTunes. Excuse-moi, moi. Mais il y a une chanson que j'ai trouvée de lui qui m'a bien plu. D'accord. M'a beaucoup plu.
Sorel?
Sorel, ouais.
D'accord.
Mais c'est pas celle que tu m'avais demandé, mais écoute celle-là, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est vivant, parce que ça m'a rappelé Piaf. Moi, je suis les verres au fond du café. Oui, Piaf, je reparlerai juste avant la fin de l'émission.
D'accord.
La lumière, j'éteins la lumière pour faire tomber la...
Alors, il n'est pas très 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 médiatisé, mais ça va venir, Sorel. Enfin, ça va venir. Oui, pour ceux qui ont l'habitude de découvrir de nouveaux talents, j'ai trouvé quelques petits mots sur lui, quelques mots plus exactement, parce qu'il n'y a pas de petits ou de grands mots, il y a des mots. Du jeune premier romantique, Sorel à l'allure svelte, les traits d'un beau gosse et le patronyme stendhalien. Ah oui, Julien Sorel, souvenez-vous. Un goût aussi pour l'exaltation et l'emprise sensuelle. Aujourd'hui, le garçon fait maîtriser la flamme de son inspiration et ciseler ses chansons avec une maturité d'orfèvre. Sorel.
Oui, c'est exactement ça. Très belle rencontre aussi. Donc là, tu nous as fait découvrir un très bon morceau de son album S. Et moi, le titre que j'avais choisi, j'aime beaucoup son univers et cet album S, mais comme je l'ai interviewé deux fois en espace de, je ne sais plus, 7 ou 8 mois, ce que j'ai aimé, c'est que d'un album à l'autre, il y avait un univers qui a changé. Et c'est cet univers que j'ai envie de faire découvrir aujourd'hui, parce qu'il est quand même très suivi sur le web. Il y a beaucoup, beaucoup grands fan clubs derrière.
De plus en plus, hein, le et web va permet à des chanteurs et des chanteuses de pouvoir s'exprimer.
Mais on ne le connaît pas encore assez, c'est aussi dommage. Hein, c'est dommage. Et son nouveau univers, donc cet album, donc oui, il est possible de le télécharger sur iTunes, etc. Ça s'appelle La Parenthèse Sauvage. Et moi, c'est ce que j'aime dans dans ce tout nouvel univers. Je ne sais pas si tu as pu écouter les deux
morceaux. J'ai écouté quelques extraits, oui, effectivement.
Et moi, ce que j'aime, c'est que tu sais, là, cette chanson qu'on a écoutée, elle est très belle, c'est très romantique, c'est très fin. Ça fait jeune garçon. Et ce que j'aime dans La Parenthèse Sauvage, c'est qu'il parle de l'amour toujours, parce que ça aussi, ça l'inspire.
À l'obsession des chanteurs et des chanteuses. Surtout des chanteurs.
Mais ce que j'aime, Jean-Claude, dans cette parenthèse sauvage, c'est qu'il ne parle pas de l'amour comme tous les autres, d'une manière... L'amour, c'est pas rose, on le sait, c'est pas toujours facile et mignon, parfois c'est difficile, c'est cru. Voilà, il y a le sexe, enfin, il faut parler d'une manière... Et ce que j'aime, c'est que il ose parler d'une manière qui peut choquer ou pas, plaire ou pas, mais il s'en fout.
Mais il a raison.
Et ce qui est bien, c'est que cet univers-là, les parenthèses sauvages, ça lui va tellement bien, parce que ça fait un homme confirmé, un homme mature.
Notre liberté aux uns et aux autres, c'est que lorsque quelque chose ne nous plaît pas, nous avons cette capacité, cette puissance, j'allais dire, de tourner le bouton, de changer. La télécommande de la télévision n'a pas été inventée pour les feignants.
Exactement. Mais moi, j'ai peur qu'il n'a pas eu peur d'être dans ce registre, ça lui va très bien.
Essaye un jour d'interviewer Saez, oui. Damien Saez, ou Saez, ouais, Saez, Damien. Je t'assure, il y a dans Zaz, essaye d'un jour, toi tu as plus de facilité que moi pour rencontrer des personnes très 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 connues, des chanteurs. Je suis sûr, certains, va vers ces... Tu peux être aussi leur ambassadrice, parce que tu as une sensibilité qui est proche. Moi c'est vrai que Charles Aznavour me donnait l'arme aux yeux, Piaf me donnait l'arme aux yeux, mais dans les jeunes aussi, quand j'écoute Tal, par exemple, en suivant les étoiles, mais ces chanteuses-là ne sont pas connues. On va toujours vers les mêmes, alors c'est bien les mêmes, mais quand j'écoute mon fils Vincent, qu'on a écouté tout à l'heure, suis touché, et c'est pas parce que c'est mon môme.
Mais moi aussi.
Parce que je suis touché.
C'est pas mon môme non plus, et j'ai été touché.
Parce que la voix est là, j'allais dire la voix est là, le geste est précis, et j'ai du ressort.
Oui, oui, tu as raison de le faire découvrir. Il faut en faire plus. Il ne faut pas s'arrêter là.
Oh, mais tu sais, dans le milieu, on dira « Oui, mais c'est parce que c'est le fils du père. » Et les gens diront « Oh oui, mais c'est parce que c'est son fils. » Eh ben non, parce que c'est mon fils aussi, mais parce qu'il a aussi du talent. Et que je trouve stupide que les médias, les chaînes de télévision et de radio, il a été à un casting il n'y a pas très longtemps encore, on lui a dit non. Pourquoi ? Il n'y a même pas d'explication. Non, c'est non. Mais pourquoi ? C'est non.
Non, mais ça, je connais.
Ça permettrait d'avancer, de dire pourquoi je ne vous prends pas, pourquoi je ne vous retiens pas.
Alors ça m'agace aussi. Tu m'as demandé ce qui m'agace. Oui. Moi aussi, quand je ne suis pas prise pour un casting, parce que je ne suis pas prise à tous les coups, la preuve, je ne suis pas là où j'aimerais. On me dit pas pourquoi je ne suis pas prise. Et je trouve ça frustrant, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on doit améliorer. Ou tout simplement, parfois, c'est que le casting est différent. On cherche un profil bien particulier et que ça ne vient pas de notre non-capacité, sauf qu'on ne nous le dit pas, donc on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre.
C'est non, voilà, mais vous pouvez nous dire, vous, le grand décideur ou la grande décideuse, pourquoi non.
Oui, ça c'est...
Comme s'ils avaient peur de dire, comme s'ils avaient peur. C'est aussi un milieu, mais enfin, Il y en aurait tellement à dire. Il y a eu aussi des grands décideurs, des directeurs de programme, des directeurs de casting qui ont fait de très très... qui ont trouvé des personnes très... Mais maintenant, il faut avoir le physique, le truc. Il y a des... Comment dirais-je ? Il y a un formatage.
Oui, mais rien, un formatage, ça veut dire qu'il faut ressembler à tout le monde. On prend toujours les mêmes personnes qui parlent de la même manière, qui ont le même gesticule. Et tous les autres qui sont différents, qui ont des origines différentes aussi, c'est quand même assez fermé. On parle de la diversité. Mmh. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir plus d'ouverture... par rapport à ça, non? Non, je pense que parfois mon accent peut plaire, mais il peut déplaire et on le mettra pas sur une grande chaîne nationale, je pense pas.
Nous, les Français, nous adorons les accents quelque peu exotiques.
Oui, mais pas sur des grandes chaînes alors, parce qu'on les entend pas tant que ça. Hein.
Donc tu considères que M6 Boutique, comme IDF1, t'ont ouvert une possibilité que...
Oui, ouais. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils sont plus ouverts par rapport à ça et que mon côté étrangère slave leur apporte certainement quelque chose, j'espère. Et puis bon, là je parle de la mode, donc je pense que c'est un univers que je connais bien, que je défends bien, donc j'apporte quelque chose. Et puis c'est vrai que la mode c'est international, donc quand on a un accent c'est peut-être encore mieux. Et puis les femmes slaves sont élégantes, aiment être apprêtées.
Pour... Il y a plusieurs chaînes de télévision sur le câble, hein. Il y a Fashion, qu'est-ce
oui,
qu'il y a
en
encore
a
Oui, il y en a de plus en plus, Lux TV, etc. Il y a plein de...
Ben, la preuve que... Oh. J'en parle pas encore vraiment parce que j'ai pas signé, donc j'ai pas signé, ça sert à rien de crier sa joie. Mais j'ai un site, j'ai une émission web normalement qui sera assez importante si ça se fait, ça sera dans l'univers de la mode encore. Donc je pense que oui, peut-être que je conviens à ça et tant mieux, mais je n'ai pas envie de m'enfermer là-dedans.
J'ai une idée et une demande oui. En même temps. Tu es libre de ne pas prendre une décision de suite, mais moi j'aime bien aller à l'essentiel, à l'essence du ciel. Si je te dis, Agatha, le studio t'est grand ouvert, si tu as envie d'avoir une émission, en fonction de ton emploi du temps qui est chargé, consacrée à la Pologne, à la communauté polonaise, sur Paris, je pense que vous êtes nombreux, une trentaine de mille. Hein.
Très nombreux.
Ouais.
Je peux pas donner des chiffres.
Hum.
Et comme je
t'avais dit... Tu viendrais ?
Mais, écoute, avec joie, je te remercie. C'est génial.
Ah oui, c'est vrai, tu me l'as déjà dit.
Oui, mais tu sais, parce que tu me parles de la communauté polonaise, est-ce que je t'ai dit aussi ? C'est pas que je ne suis pas une bonne ambassadrice à ce niveau-là, c'est que j'ai fréquente des gens... je ne fréquente pas beaucoup de Polonais finalement, c'est ça qui est drôle, c'est un petit paradoxe, c'est que je suis polonaise à Paris.
Et souviens-toi que au début de l'émission, je te disais que tu redécouvres la Pologne depuis quelques
oui,
temps.
Oui, oui, mais je trouve ça tellement enrichissant d'être là que je ne recherche pas spécialement d'être uniquement entourée de personnes qui ont les mêmes origines que moi. Maintenant, je suis ravie de les rencontrer évidemment, je connais des gens brillants. D'ailleurs, encore récemment, j'ai rencontré quelqu'un d'origine polonaise qui est un artiste peintre. Qui porte un nom très noble pour la Pologne, Poniatowski, donc j'ai fait un petit clin d'œil. Parce que j'aime rencontrer des gens qui ont des origines polonaises, évidemment que ça me touche, évidemment que ça me parle. Et j'aimerais qu'on puisse aussi, ces genres de personnes, ces jeunes artistes,
écoute,
de le faire découvrir.
La porte est ouverte. La porte est ouverte.
Écoute, je reviendrai
avec lui. Je suis d'accord
avec
toi. Il n'y a pas que Lech Wałęsa en Pologne, il n'y a pas que Chopin. Il y a des centaines et des centaines d'écrivains, de musiciens, de chanteurs, de comédiens qui sont polonais. Souvent, ils cachent un peu leur origine. D'ailleurs, j'ai pas toujours compris pourquoi. Tu ne rougis pas, toi, d'être polonaise, Agatha?
Je pense que ça fait ma force aujourd'hui. Je suis fière d'être polonaise. Mais j'aime aussi, je dirais que je suis polonaise, mais très parisienne. Et je pourrais pas choisir ou dire combien de pourcents je suis... Peut-être 50-50, je ne sais pas. Mais j'aime les deux et je pense que c'est ce qui fait ma force et ma culture aussi et ma richesse.
Alors Yul écrit, Aznavour est sans doute, je lis le message avec un peu de retard, est sans doute un des plus grands paroliers encore vivants. Peu de gens lui arrivent à la cheville. Il déploie dans ses textes toute la richesse et la générosité de la langue française. C'est vrai, on peut rire, Aznavour, l'évader fiscal, les trucs, mais putain, arrêtez de nous emmerder avec ça, regardez le talent de l'homme, regardez la vie de l'homme, elle est exemplaire. On aime ou on n'aime pas Aznavour, il y en a qui disaient qu'il avait, que sa voix, mais regardez quoi, Aznavour, il a vendu des millions d'orties de mais j'ai toujours remarqué que c'était ceux qui ne faisaient rien de leur vie, qui critiquaient ceux qui réussissaient. Voilà. Alors, il a gagné du pognon, oui, il est évadé, oui, mais ça c'est un autre débat. Yannick Noah, on parlait de l'handicap tout à l'heure, là, tu vois, je suis passionné aussi, je connais Yannick, c'est un ami proche. Yannick, j'allais dire est passionné, non, mais donne beaucoup de son temps pour une forme de maladie très 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 rare, qui est un handicap de naissance. C'est Vincent qui est à côté voit sûrement de quoi je veux parler. C'est une maladie qui frappe des enfants, les os des enfants. Et si tu veux, ces enfants, j'ai pas, c'est un peu compliqué la vie. Tu sais, c'est ces enfants qui vieillissent prématurément. Ils ont 10 ans ou 11 ans, on leur donnerait 50 ou 60. La progéria, voilà.
D'accord.
Yannick fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit, mais il faut que vous sachiez ça aussi. Alors oui, Johnny, oui, mais bon, et quand vous aurez fait la carrière de Johnny, hein, on peut se foutre de lui, mais quand il est sur scène, bah, il est sincère, il est entier. Ouais. Alors il picole, et oui, alors, mais vous êtes parfait, mais nous, voilà. Nous sommes parfaits, nous. Mais il faudrait arrêter, parce que je crois que c'est typiquement français, quoi. Quelqu'un qui réussit, forcément, il a fait des magouilles, quelqu'un qui a gagné de l'argent ou qui est devenu millionnaire ou milliardaire, forcément, non, il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent.
Eh oui.
Regardez, il y en a qui commencent dans un petit studio de quelques mètres carrés avec du matériel, de qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà, mais qui ont du cœur, qui ont envie de faire quelque chose et de partager, que ça fonctionne. Tout à l'heure, pendant qu'on écoutait, je me rappelle plus qui, je crois Sorel, qui m'a dit, on arrête à 9h. J'ai dit, oui, bah oui. Il m'a dit, mais on peut continuer un peu.
Parce qu'on est bien, je trouve. On est bien chez toi.
Parce qu'il faut être encore capable de gueuler, quoi, de crier, de dire non, je suis pas d'accord. Mais c'est vrai que dans les médias, les producteurs et les animateurs, les présentateurs n'ont pas de mouvement d'impatience, quoi. Moi, j'aimais bien du temps de Ruquier quand il y en avait qui montaient sur la table, comme Lalanne, quand il prend des coups de gueule, comme Cali. Ouais. Alors je peux vous dire, Lalanne, c'est pour bientôt. Je vous dirai quand. Dans quelques semaines. Parce que là, il a eu une très grave opération des yeux, il est en train de s'en remettre tout doucement. Mais voilà. Moi, j'aime bien des Cabrel qui s'indignent et qui sont capables d'aller au-delà de la religion, de la politique. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui nous réunit? Il y a plein de choses qui nous réunissent.
Oui.
Pourquoi on fait toujours ce qui nous sépare et jamais ce qui nous unit, ce qui nous réunit? Bon, j'ai assez parlé, là. C'est mon émission, c'est ton émission, c'est pas la mienne.
Non, c'est la nôtre.
Oui.
J'en ai parlé assez, moi aussi. En tout cas, c'est bien convivial, on est bien chez toi. La preuve, on n'a plus envie de repartir.
Voilà, donc ne critiquons pas avant sans savoir, parce que c'est un petit peu le défaut d'Internet. C'est que n'importe quelle information va être prise au sérieux et qu'on va balancer des infos qu'on n'a pas eu le temps ou l'honnêteté de vérifier. Vérifier, parce que vous savez, Internet, c'est le pire et le meilleur. C'est souvent le meilleur, mais c'est parfois le pire.
Oui. Il faut bien vérifier la source, évidemment. Je trouve qu'il est facile de critiquer, mais si on se disait juste, et si tout simplement on était à la place de la personne, peut-être qu'on ferait exactement la même chose.
Mais sûrement.
Mais voilà.
Une bande de frustrés que nous sommes. De toujours être envieux de celles et ceux qui ont réussi. C'est tout. C'est faut arrêter, quoi. Il y en a... Mais bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais faire une émission, je vais tourner en rond, je serai tout seul. À propos d'émission, ben, je vais vous proposer une émission le 11 octobre. Sur Radio Étoile du Cœur, là je serai tout seul, je vous accompagnerai de 19h à 22h, parce qu'après 22h, on peut pas faire trop de bruit. Hein. Je vais consacrer une émission à Piaf.
Je t'écouterai, tu sais.
J'ai le répertoire intégral de Piaf, ouais. 244 chansons. Elle en a chanté un peu plus de 300, on ne savait pas que Piaf aussi composait. Elle a écrit beaucoup de textes. Mm-hmm. Piaf et Cocteau, parce que j'ai le sentiment que ces deux-là, c'était des âmes sœurs. Ils ont joué ensemble, ils ont tourné ensemble, ils sont morts à quelques heures d'intervalle. Il y en a une qui est morte le 10 octobre, l'autre le 11 octobre, mais je vous dirai ça, il y en a qui sont au courant. Voilà, je serai tout seul. Et puis vendredi, donc cette semaine toujours, ce sera le 21, je crois, oui, nous sommes le 18 aujourd'hui encore. Je serai avec un ami aussi, un frère frère de partage, un frère de radio, un frère spirituel, tu le connais pas. Il est toujours animateur sur Radio Anguien, c'est Franck Dumouya. Qui est un tarologue, mais on ne connaît de lui que le côté tarologie. Mais c'est un ami. Un ami, comment toi tu vois un ami? C'est qui c'est pour toi un ami?
Un ami, j'ai de la chance, hein. J'en ai des amis de merveilleux, qui sont toujours là. Peu importe de chemin que notre vie prend, ils sont là dans les bons et mauvais moments, et surtout dans les mauvais. Et des gens fidèles, enfin, fidèles, fidèles d'amitié, sincères. Sincérité, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui m'apporte beaucoup. Et des gens qui nous aiment pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait aussi. Je pense que ça, c'est important. Et je le vois encore plus en rentrant dans ces milieux, que parfois on nous apprécie pas, mais on nous apprécie ou pas, mais pas pour des bonnes raisons. Donc voilà, c'est ça, le bon ami.
L'ami ne juge pas.
Non.
L'ami ne te dit jamais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là.
Non, l'ami
te dit
comprend.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi.
Oui, l'ami
c'est ça,
comprend.
L'amitié.
Il est dans la compréhension, surtout dans l'accompagnement.
Hum.
Oui, jamais dans le jugement.
Alors Chopin.
C'était quasiment
inévitable, Chopin.
Tu me fais pleurer là encore.
Non.
Alors c'est drôle parce que Chopin a beaucoup accompagné mon enfance. Donc c'est des souvenirs assez flous et lointains. Mais quand il y avait des dîners de famille dimanche chez ma tante Vatia, il y avait toujours la musique de Chopin quelque part. Donc j'étais vraiment bercée là-dedans. Et quand j'entends Chopin ici à Paris, je suis encore plus nostalgique de ma Pologne, de ma douce Pologne. Ouais.
Tu vois, tu me fais me souvenir d'une chanson, un chanteur canadien qui chante ça, je crois, hein. Claude Léveillé. C'est extraordinaire, tu sais, la synchronicité. Comme si là-haut, moi je dis là-haut, mais ça peut être à droite, à gauche, en bas, comme si... ils étaient là à me souffler dans l'oreille et j'ai cru entendre il y a quelques instants la voix de mon papa qui me disait « Parle-lui de Frédéric ». Et là, la chanson c'est « Souviens-toi du monde entier quand Frédéric me jouait les jours ». Enfin, il parle de Frédéric Chopin, il parle du piano. Autour de la table, tout le monde était réuni, il y avait le père, la mère et les enfants et il y en avait un qui s'appelait Frédéric et qui jouait du piano. Oh, faudrait que je la retrouve là, mais c'est comme ça. C'est dans l'instant, tu parlais de l'instant. Frédéric Chopin, tu as été bien entendu sur sa tombe au Père Lachaise.
Évidemment. Et puis c'est vrai que chez nous, la musique classique, donc déjà Chopin, très important, mais le piano déjà, c'est une histoire des familles. J'en ai fait quand j'étais petite. Ma maman, elle en a fait. Ma grand-mère, elle en a fait. Et d'ailleurs, je suis très émue parce que mon piano va arriver à Paris bientôt.
Mmh. Pendant que tu parlais, je me souviens. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les souvenirs de mes 15 ans le dimanche. Voilà, c'est... Et tu sais, Frédéric Chopin, tu sais qu'il y a deux hommes très très connus à côté de lui. Il y a Pierre Desproges.
Oui.
Tu as vu?
Non.
Quand tu retourneras, regarde.
Je fais attention, j'étais tellement...
Pierre Desproges avait souhaité... que lorsqu'il serait parti de l'autre côté, qu'il puisse mater la tombe de Frédéric Chopin. Tu vois ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément.
Non.
Et puis il y a de l'autre côté, dans la même allée, il faut monter un peu, hein, c'est pas facile à trouver, elle est pas facile à trouver la tombe de Chopin. Et il y a aussi un ami que j'ai perdu, un pianiste très 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 connu.
Qui est-ce?
Michel.
Dis-moi.
Ah, j'ai oublié Michel. Michel qui? Michel Petrucciani.
Ah oui.
Vincent est là.
Ah oui.
C'est normal,
merci,
il est
Vincent,
plus jeune.
D'être là.
Merci d'être là, Vincent. Michel Petrucciani.
Ah oui, oui.
Tu vois, tu parlais du handicap tout à l'heure. Quel immense artiste, quel immense pianiste. Je crois que les pianos font partie de notre vie à nous, les romantiques.
Oui, je crois.
un mot sur la beauté des paysages polonais. En parcourant toutes ces régions en voiture, je me laisse à chaque fois émouvoir de cette sensation d'apaisement, de sérénité et de cette spiritualité particulière qui règne ici. Les champs de multiples couleurs à perte de vue, les petites têtes des biches de temps à autre, les cigognes qui construisent paisiblement leur nid sur les toits des maisons, des gens travaillant à l'horizon. Cela me rappelle également mon enfance, tous ces moments doux passés avec mon arrière-grand-mère, Francisca, les rochers des églises qui règnent fièrement sous le ciel bleu. Ma belle Pologne. Non mais c'est pas vrai, la voilà encore émue.
Ben oui, non c'est vrai, c'est vrai.
Mais tu sais, tout arrive là quoi, il suffit simplement de...
Ben je te remercie.
Tu me fais penser à Richard Boranger, mon ami Richard, qui viendra peut-être. Et quand il dit, quand il parle de l'Afrique, ma belle Afrique. Et ce texte que tu as écrit pendant ton voyage, il était sous mes yeux, je pouvais pas faire autrement
ben, je te remercie.
Que de le lire. Pourquoi ça t'émeut autant?
Parce que c'est exactement ça, parce que j'ai su... à cet instant, décrire ce que je voyais, c'est vrai qu'il y a une beauté, il y a un apaisement que j'éprouve là-bas, que je ne peux pas éprouver ici, par exemple. C'est très particulier, ce côté spirituel, très fort là-bas, très présent.
C'est aussi un mot qui m'a étonné.
Oui, mais tu sais, on le voit, je veux dire, les églises sont partout, chez nous, nous sommes tous catholiques, donc il n'y a pas beaucoup de conflits. On a de la chance de pouvoir éviter tous ces conflits que nous avons ici en France, parce que voilà, la question ne se pose pas, nous sommes tous catholiques, 90%. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très spirituel, il y a la tradition, la famille, les valeurs qui sont importantes, et ça j'aime ça, d'être empreint de ces belles valeurs de ma culture.
Lors de, là, j'ai remis mon message. Tu as vu vraiment, faut vraiment beaucoup aimer la radio, tu vois, pour, oui, mais je le dis, parce que toi, tu es dans le studio, tu vois comment ça se passe, mais c'est un pied incroyable.
Moi, je pleure comme chez moi, en train d'écouter Chopin.
Tu as raison. Alors justement, deux se posent des questions, il y en a un qui se pose une question, c'est Yul, qui me dit, qui c'est qui joue là? Est-ce que c'est Glenn Gould? Est-ce que c'est Glenn au clavier? Un pianiste.
Alors non, c'est Chopin.
Oui, mais c'est du Chopin, mais quel est l'interprète? Tu sais pas?
Alors là, je ne sais pas. Je sais que c'est la nocturne numéro 20. Je sais parce que c'est ma préférée, celle que je me rappelle le plus. Mais je ne sais pas quelle interprétation. Et finalement, je t'ai envoyé, je ne me rappelle plus après dire. Donc désolé. Il y en a tellement en même temps.
Et Chopin reste Chopin.
Ben voilà.
Et puis quelle belle histoire d'amour aussi.
Oui. Très belle histoire.
Alors, Sylvain te posait la question tout à l'heure, à laquelle tu n'as pas totalement répondu, j'ai dû t'interrompre. Quels étaient tes projets pour 2012, 2013, et puis pour ces dernières minutes, ce que j'ai envie de faire, c'est de te laisser le micro, je m'efface, je me tais, et je te laisse parler parce que la professionnelle de la caméra, la chroniqueuse, c'est toi, Agatha. Alors, tu as l'antenne.
Je te remercie.
Tu t'y attendais pas, mais c'est comme ça. Débrouille-toi.
Écoute, déjà, je trouve que j'étais très bavarde, ce qui m'étonne. Je pensais pas que je vais être si bavarde, mais je pense que tu m'as mis vraiment à l'aise et que j'avais envie de me confier et que ça fait du bien, que tes questions m'ont émue aussi. J'ai vu que tu t'es vraiment intéressée à mon parcours, donc je te remercie. J'espère que ça pourra servir à des personnes qui ont, je ne sais pas, des rêves, des envies, de croire, de se battre, d'y aller au fond. Maintenant, quels sont mes projets? Dans ce genre de métier, il est difficile de parler de projets sûrs, parce que parfois les choses ne marchent pas comme on aimerait. Donc oui, j'espère que je pourrai continuer là-dedans, que je ne sais pas, qu'une chaîne plus importante me fera confiance, mais si c'est pas le cas, je suis déjà très contente d'être là où je suis. Je vais continuer les rendez-vous d'Agatha. J'espère qu'il y aura d'autres artistes qui auront envie de se confier à moi. Et c'est déjà formidable, et j'adore, ça me comble déjà, et c'est tellement enrichissant. Et quoi te dire de plus? Que j'ai parlé de Ondivoix, donc cette association qui me tient tant à cœur, je t'ai parlé de Laura, que tu as vu sur la photo. Il y a aussi un garçon qui s'appelle Lenny, que j'ai découvert récemment, pareil, au hasard ou pas, sur une photo de Facebook. Et pareil, ça m'a bouleversée. C'est un petit garçon qui atteint d'un cancer très rare. Et pour qu'il puisse être soigné, il faut 13 000 euros par mois. Et j'ai vu les appels de ses parents, voilà, sur ses réseaux. Et pourquoi ne pas en parler? Si on n'en parle pas, les gens ne vont pas savoir que ces gens dont besoin existe et que là, c'est un besoin vital. Donc, il s'appelle Lenny. Si vous tapez Lenny, concert, j'ai pas la tête, j'ai pas en tête le site exact, mais il est sur ma page. Et c'est important de... On a tous un petit peu de temps libre pour soutenir ces gens-là, et puis ça fait du bien, enfin, d'être utile. Il y a encore deux autres causes, après je m'arrête parce que...
Vas-y, je t'en prie.
Mais chaque est belle, et chaque a un message à porter, et chaque est dans l'humanité, je trouve ça tellement enrichissant. Il y a... Donc tu as vu la photo avec les petites poupées aussi, la petite poupée Inès qui m'accompagne partout. Cette petite poupée, elle a le rêve d'être animatrice télé. Et c'est drôle parce que ces poupées, elles viennent du Brésil, elles sont faites par des mamans et des petites filles là-bas. Une communauté qui s'appelle Contramundo, si ma mémoire est bonne, si je n'écorche pas. Et ça s'appelle Duda, et les Bonacos dos Sonros, pareil, si je n'écorche pas trop. Mais c'est une belle histoire aussi. Et ces poupées sont ramenées en France et sont vendues, pas cher évidemment, mais tout cet argent revient aux familles là-bas, leur permet de vivre un tout petit peu d'une manière meilleure. Et ce que j'aime, c'est que en l'adoptant, parce qu'on dit qu'on adopte la petite poupée, elle nous accompagne, on poste les photos en disant que voilà, on l'accompagne à droite à gauche et on la fait vivre, on fait vivre un rêve d'un enfant de Brésil. Je trouve ça beau, je trouve ça sain. Et oui, j'ai envie de soutenir toutes ces causes. Il y a aussi des mains rouges que je soutiens et je les embrasse parce qu'ils se battent tous. Ils sont très soudés ensemble, à la tête Thierry Saint-Jean, qui est un mec formidable. Et c'était la lutte contre les sida au début. Maintenant, ils sont ouverts vers d'autres associations. Et ce que j'aime, c'est que c'est ça aussi. C'est que chaque artiste, ou pas, on n'est pas obligé d'être artiste pour faire notre t-shirt. On fait un t-shirt avec un message. Ce t-shirt est vendu et tous les profits vont à l'association de votre choix aujourd'hui. Donc, je trouve ça formidable. Si quelqu'un soutient cette association, il fait son t-shirt chez Des Mains Rouges, et hop, de ce fait-là, l'argent revient à son propre, l'association qui lui tient à cœur. Donc, je trouve ça beau, et je les soutiens aussi. Parce que c'est important, voilà. Enfin, on a de la chance, encore, j'ai toujours du bois, de peut-être ne pas avoir de gens malades.
Et c'est vraiment du bois.
Ah oui,
que
là.
Tu viens de toucher.
C'est du cousteau. Et on m'avait posé une fois une question. Joël d'Andivoy, il m'a dit, Agatha, je comprends pas pourquoi ça te tient à cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade à tes côtés ou quelqu'un d'handicapé? Non? Mais je n'ai pas besoin d'attendre à ce que ça m'arrive pour que ça me parle et pour que ça me touche et pour que ça m'énerve, ça me révolte et pour que j'ai envie de faire quelque chose. Et j'en fais pas assez, mais je n'ai pas de moyens d'en faire plus. Et ceux qui n'en ont, ils devraient en faire davantage. Voilà, donc toutes ces causes, voilà, je vous embrasse tous, je pense à vous, et j'espère que grâce à ça, je vous fais connaître un petit peu plus, tout simplement.
J'avais gardé ça pour la fin, écoute.
Oh.
Je ne connaissais pas.
Zacho Power et Bosso, ça veut dire pieds nus.
Que dit la chanson?
Bah écoute, figure-toi qu'elle parle de la mort. Et je ne me suis pas rendu compte au début parce qu'elle est tellement joyeuse, tellement drôle. Et j'aime, parce que finalement il dit « J'irai pieds nus, je ne prendrai rien avec moi, je n'ai besoin de rien, j'irai juste pieds nus. » Et j'aime ce groupe, je l'ai découvert cet été d'ailleurs, quand j'étais de passage en Pologne. Et j'ai eu un coup de cœur, c'était vraiment, d'ailleurs j'ai écrit un article sur ça, c'était mon coup de cœur musical, vraiment. Et j'espère que je pourrai les rencontrer, ces artistes, parce que ce sont des vrais montagnards. Ils vivent dans une région du sud de la Pologne, qui s'appelle Zakopane, une région qui est magnifique, que je vous conseille de découvrir. C'est vraiment magique d'être là-bas en plein hiver, il n'y a rien de plus beau. Et eux, ils sont de là-bas, donc c'est vraiment des montagnards, des musiciens qui jouent des instruments traditionnels, ils portent des costumes traditionnels. Et puis j'aime, c'est beau, ça fait du bien, ça fait voyager, c'est des paysans. Donc ça m'avait fait plaisir parce que finalement je l'ai découvert moi aussi cet été, je connaissais pas ce groupe, voilà.
Et puis voilà, Agatha, c'est fini.
Déjà ?
Je vais pas dire déjà, comment déjà ?
Non, écoute, c'est déjà très bien, ça fait déjà un long moment que nous sommes là, et on va pas réténuer tout le monde plus longtemps, et j'espère que mon témoignage peut être utile à des jeunes personnes qui, je ne sais pas, qui ont peur d'aller de l'avant. Il faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut croire en ses rêves, en ses capacités, sa passion. Et la chance à Paris, et je pense que c'est une chance, c'est qu'on peut arriver à tout si on sait s'entourer des bonnes personnes. Évidemment, c'est très important aussi, des réseaux, parce qu'on a besoin de gens, hein, sont des bonnes personnes qui croient en nous, on peut pas avancer. Mais quand on se donne du mal et on travaille, moi je trouve que ça paye toujours. Donc voilà, il faut y aller, il faut foncer.
Essaye de savoir. J'écoute et puis en même temps, tu sais, je laisse aller mon esprit. Essaye de savoir quand même si ton ascendant n'est pas Balance.
Bah écoute,
toi qui aimes la nuit, tu dois être né entre 1h et 3h et 3h30 du matin. Essaye de savoir si tu es né la nuit.
Maman m'a dit qu'il commençait à faire jour, c'était en plein hiver en Pologne, donc tu vois, on a du mal. Hein. Donc on va me dire, mais attends, elle a pas de papier et tout. J'en sais rien, les papiers ont dû se perdre. Donc. Oui, c'est des vrais compagnards. Écoute, on a pas d'heure, peut-être. Il m'avait dit qu'elle se rappelle qu'il faisait à peine jour, tout doucement, donc écoute. Je te dirais.
Ce serait plus près de 5h du matin, ou 6h du matin, ou 7h du matin, peu importe. Mais moi, j'aime beaucoup ta sensibilité. J'ai pas dit sensiblerie, ta sensibilité. De se laisser aller comme ça, il y a une petite webcam.
Et tu as vu, j'ai pleurniché.
Et oui.
J'ai le nez qui coule.
C'est vachement, c'est touchant. Je t'assure, c'est touchant. C'est ça, la rencontre. Et ça, c'est aussi possible par l'intermédiaire et de la radio et de la télévision. Bah, je suis très heureux.
Et moi voilà, aussi.
C'est une belle émission. Pour moi, c'est une belle émission. C'est une belle rencontre. J'ai devant moi quelqu'un de beau.
Merci Jean-Claude.
De bien.
Je te remercie. Je suis très touchée. Merci pour cette invitation. Ça m'a apporté beaucoup aussi. Je suis contente d'avoir rencontré, d'avoir pu me retrouver ici. Ça fait du bien en tout cas.
On se lâche pas la main, on continue.
Oui.
Hein, mais on se tiendra au courant de ce que nous faisons l'un et l'autre. Et n'oublie pas, Andivois, ils sont les bienvenus. Ben, Sorel, les bienvenus.
Ben, je leur dirai tous.
Corson, tes invités sont aussi mes invités.
Ben, je te remercie.
Ce sera une façon de prolonger notre rencontre de ce 18 septembre 2012. Parce qu'il est important de mettre une date.
Puis il n'y a pas d'hasard avec des rendez-vous, donc c'est un très beau rendez-vous. Je te remercie.
À bientôt.
À bientôt, Jean-Claude.
Et continuons de suivre les étoiles. Agatha.
Toujours. Merci.
Voilà, c'est fini. Déjà, pour certains, pas trop tôt pour d'autres, c'est fini. En tous les cas, je m'éclate. C'est la radio comme je l'aime, avec des rencontres comme je les aime. Et puis, si ça vous rend heureux, bah, tant mieux. Et s'il n'y en a qu'un seul ou une seule, c'est œuvre utile, comme le disait tout à l'heure Agatha. Alors le prochain rendez-vous sur Étoile du Cœur, sur la web radio Étoile du Cœur en direct, ce sera jeudi de 17h à 19h avec Marika El Haki pour son émission intitulée Islam et spiritualité. Ce sera en direct, donc jeudi 20 entre 17h et 19h sur Radio Étoile du Cœur. Et en suivant les étoiles, ça suivra le jeudi, ce sera vendredi 21 septembre de 17h à 19h, le même horaire, non, c'est pas le même horaire qu'aujourd'hui. Non, parce que c'est vrai, entre 19h et 21h, il y a la télé, il y a le dîner, il y a quantité de choses. Tandis que bon, 17h, 19h, on verra. Mon invité, donc vendredi, entre 17h et 19h, vendredi 21 septembre 2012, s'appelle Franck Dumouya. À jeudi avec Marika et à vendredi avec Franck. Au revoir.